En préambule, j'aimerais dire à Monsieur Keller qu'il a tout mon soutien. Je suis abonné depuis quelques années au Racing et j'ai toujours suivi aussi bien Marc Keller quand il était joueur. Vous voyez, je vais avoir 72 ans, donc c'est pas tout jeune. Et c'est important de lui apporter son soutien. J'ai une question. Comment vit-il aujourd'hui cette nouvelle ambiance sous-jacente qui est parfois très délétère, très premier degré aussi, et de gens qui critiquent la nouvelle situation du Racing? Comment vit-on cela?
Bonsoir. Ouais, je suis ému, pas par le discours de Marc Keller sur France Bleu face à notre confrère Luc Dreosto ce matin, mais ému par cette équipe réunie ce soir. Le projet Racing Stoop prend enfin, Radio Stoop Racing Stoop prend enfin forme.
Que des jeunes prometteurs.
Voilà, que des jeunes prometteurs. Voilà, sans attendre, je balance directement. Rachmaninoff est avec.
Mr. Bombastic, we order some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover, lover. Mr. Lover, lover. Girl, Mr. Lover, lover.
Salut, bonsoir à tous.
On n'est plus obligé d'attendre pour JB Larkin. On peut y aller, on s'en fout.
D'accord.
À tort, et là aussi.
Oui, bonjour, bonsoir, de retour après mon bannissement suite à la première émission de la saison.
Voilà, bah, bien sûr, on a quand même touché pas mal d'argent pour te garder au frigo.
Voilà.
Mais maintenant c'est la fini, censure. On a tout dépensé, donc maintenant on peut continuer à bas la censure et Calcio. Attention, please, attention, please. This shit here feels like a whole entire world collapse. Motherfucker. Avec un quiz.
Avec un quiz. Inédit.
Inédit. Voilà.
Rachat, tout ça. Et...
Alors, pas le temps de niaiser, comme on dit. On va rentrer direct dans le vif du sujet avec la dernière victoire du Racing Club de Strasbourg. Avant, je ne sais pas quand. Il s'agit bien sûr du derby de l'Est. Voilà, j'en ai tout.
Tu t'es moustillé.
Je repense à ce match formidable qu'on a vécu pour la plupart en tribune. À Saint-Symphorien, donc Metz 0, Racing 1. Ah.
Merci.
Dernière victoire en date.
Voilà.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire sur ce match?
Merci Okidja.
Oui, merci Okidja, parce qu'on gagne sur un seul tir cadré. David Diarra en fin de match, avec Okidja qui n'est pas exempt tout reproche. Donc après, sur le match en lui-même, ben, c'était hyper pauvre. Vieira avait reconduit, je crois que c'est le deuxième match où il faisait 4-3-3 après Montpellier. Donc il a reconduit ce 4-3-3 avec Angelo titulaire. Mais il n'y a rien eu dans le jeu. Il y a 4 tirs, un cadré et qui est rentré au fond grâce à Okidja. Si on parle des XG, 0-2.05 XG, donc voilà, un match atroce.
Des XG négatifs.
C'est-à-dire, on marque un but avec moins de 0.5 XG.
Parce que le modèle de XG ne tient pas compte d'Alexandre Okidja.
Ils estiment qu'il y a un bon gardien en fait.
Ils estiment qu'il y a un gardien.
Pourtant, Okidja avait été élu meilleur gardien du monde de la semaine. Ouais, parce justement.
Il avait pris 5 buts et il avait fait 10 parades, un truc comme ça.
Non, il sortait pas d'une victoire à Lens là où il avait été assez énorme.
Si, oui, c'était pas sur Lens.
Oui, il avait tout arrêté, ils avaient tiré sur lui pendant tout le match.
Mais c'était aussi extrêmement faible. Enfin, là, c'était vraiment un match de fond de classement.
alors que pourtant à ce moment-là le Racing devait être quoi 7-8e je crois. On était encore assez bien classé.
Il y a un site qui fait les classements, ouais, j'en ai trouvé.
Oui, les classements avant match et classements après match sur les fiches.
Voilà. Mais non, mais c'est vrai que c'était pas un match de fond de classement. Ça sera, le retour sera peut-être un match de fond de classement puisque c'est le dernier match à la Méno.
Le match pour la lanterne rouge.
Mais voilà. À retenir le nouveau stade Saint-Symphorien, j'ai entendu des gens dire il est mieux que l'ancien.
Oui. Ça a été dit. je confirme. Ça a été dit.
Moi, j'aime beaucoup.
Voilà.
Ça a été dit aussi.
Voilà.
Inachevé.
Après, sur le match en lui-même, je crois que c'est Angelo qui est un peu sorti son épingle du jeu parce qu'il était assez remuant. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a pas mal de déchets, mais il est né en 2004, hein, il a 19 ans. Il a même pas encore fêté ses 19 ans. Donc, voilà. Le jeu est tellement stéréotypé, tellement pauvre, que le moindre joueur qui arrive à faire une différence individuelle, on a toute l'impression que c'est Ronaldo.
Le Racing avait bien commencé, hein. Il y avait 10 premières minutes là, de mémoire qui étaient plutôt bonnes. Et après, effectivement, plus grand-chose, voire plus rien du tout. Et une vraie difficulté dans les centres, hein, pour le Racing. C'est sans doute pas la seule difficulté, mais alors dans les centres, je trouve que c'est assez catastrophique, hein, que ce soit Delaine ou...
C'était Senaya sur ce match, d'ailleurs.
Ouais, mais Delaine à gauche, hein, qui a réussi quasiment aucun centre, et effectivement à droite, Senaya, Gilbert, c'est pas top non plus au niveau des centres.
On peut garder cette conclusion.
Et donc le Racing est sixième après le match.
Voilà. Sixième meilleur classement du Racing depuis l'histoire.
Mais le Racing n'avait pas gagné un Metz depuis quoi, 15 ans? Bon, l'histoire dit qu'on ne les a pas joués pendant 10 ans, mais bon. Avec public,
ça remontait bien.
Avec public, puisqu'on sort la stat avec Paris d'avec public, sans public.
Et juste encore un fait saillant sur ce match-là, c'est le match d'Enega, qui était titulaire seul en pointe 4-3-3. Je crois que c'était après. Donc je ne fais pas tout de suite. Je ne dévoile pas la suite, mais sur ce match-là, il était complètement isolé. Il a touché très peu de ballons. Bah, il a quasiment pas été dangereux, hein, puisque le seul tir cadré, c'est Diarra.
A priori, c'est un peu son style.
Bah, son style, c'est quoi? Je pense que c'est plutôt un attaquant de soutien. Oui, mais c'est plutôt un attaquant de soutien qui tourne autour d'un autre joueur, enfin c'est un joueur pour jouer à deux devant. Alors, ça pose la question du recrutement, on y viendra aussi tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas c'était horrible. On a gagné, mais c'était horrible.
C'est quand même pas des matchs faciles, hein, pour des attaquants qui n'ont pas grand chose derrière au milieu, hein, et qui passent à mon avis 90 minutes plus le reste à courir après un ballon en espérant toucher pendant une balle. Mais je pense que c'est très difficile, effectivement, hein, pour Omega, on reviendra.
Je pense que Lens, non, c'est Nantes, oui, fait sa meilleure prestation. Et donc, on va transition tout trouver. Après le derby de l'Est, le Frérico.
Le Frérico contre...
Match cher à Calcio.
Ben, bien sûr, pour nos frères Rolando.
Et ce qui est marrant, c'est comme on ouvre la journée de championnat, en gagnant, on aurait pu être leader du championnat. ce qui est quand même incroyable, vu que déjà la manière laissait fortement à désirer.
Depuis le début de la saison, ouais, tout à fait.
En fait, je crois qu'en différence de but par rapport à Brest à l'époque, alors, il aurait fallu gagner 3-0, ouais. Et on aurait été leader.
Il fallait marquer 3 buts, ouais. Tu te rends compte?
C'est ça.
Leader.
Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé.
Mais on était à un vrai tournant de la saison, parce qu'on recevait deux fois de suite.
Lens, ça allait un petit peu mieux, mais ils étaient quand même encore mal en pointe.
Ils avaient juste une petite rémission en gagnant le match d'avant.
Mais ils étaient barragistes, hein, ils étaient 16e avant le match.
Et moi, le sentiment de ce match, c'est vraiment que Lens a... C'est pas un gros Lens, mais ils ont pas forcé leur talent pour battre le Racing. Et notamment, à partir du moment où ils mènent 1-0, et ben, ils sentent qu'ils sont absolument pas mis en danger. Et du coup, ils se disent, écoute, c'est bon, hein. On fait tourner un peu derrière. De toute façon, en face, le Racing ne presse pas. Le bloc était tellement bas que cette équipe, c'était Emega qui était devant, qui, alors le public s'agaçait, commençait à râler. Et il se retournait, mais il était tout seul. Oui. Il avait dit, alors au bout d'un moment, il y allait quand même pour faire taire les sifflets, mais c'était complètement débile parce que du coup, en un coup de triangle, bah, il était éliminé. Oui. Il y avait. Le Racing était mené, mais on sentait pas la révolte. Comme s'ils savaient pas ce qu'il fallait faire.
C'est surtout que le Racing se heurtait à un collectif lensois, qui, certes, ils étaient pas très bien en championnat, ils étaient justement barragistes, ils étaient 16e avant le match, et ils font toujours pas un bon début de saison. Mais par contre, on voit ce qu'ils veulent faire sur le terrain. Enfin, tu vois comment c'est organisé, c'est le 3-4-3 de Francaise avec du pressing, avec des combinaisons effectivement en triangle avec les latéraux assez hauts. Tu sais ce qu'ils veulent faire. A contrario, nous, certes, Patrick Vieira, il relançait son 4-3-3, il voulait rester là-dedans, il a mis ses deux ailiers, ses deux seuls ailiers d'effectif, Angelo et Pacquoi, si je m'abuse, il était titulaire.
Oui, c'était beaucoup.
Ouais, effectivement, il était titulaire.
D'accord.
C'était pas impérissable. Et donc, ouais, c'était, après l'ouverture du score de Lens, on ne savait plus quoi faire, parce que Lens, ils avaient juste à gérer, ils préparaient leur match de Ligue des Champions juste 3 jours après. Donc, voilà,
l'autre Racing, le nôtre, avait ouvert le score, est-ce que Lens aussi n'aurait pas été paniqué? Parce qu'on a l'impression qu'eux aussi, une équipe qui doute, et bon, une équipe qui doute, genre, a souvent du mal, après l'ouverture du score, à relancer la machine, ça c'est ce qu'on voit à peu près à tous les matchs.
Ce qu'ils ont vu contre Metz par exemple, Lens. Ils étaient menés 1-0, ils n'ont pas réussi à égaliser et à gagner.
Après, alors, le but d'Oaï est lourd, mais la défense entre guillemets de Niamsi, hein, c'est pas la seule fois, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Mais Niamsi se place n'importe comment, derrière il va pas sur Oaï qui a le ballon. Leur offre un peu de but, et effectivement, après, il n'y a rien du tout. Et moi, ce que je trouve le plus inquiétant, hein, mais ça a été confirmé sur les matchs d'après, c'est effectivement, il n'y a pas de révolte. On ne sent pas une équipe qui veut absolument gagner, hein, ou absolument égaliser. Hein.
Mais moi, je ne pense pas que les joueurs n'aient pas envie, mais je pense qu'ils sont tellement perdus qu'ils n'arrivent pas à... Même si au fond d'eux ils ont la rage, ils ont envie de gagner, il y a un moment, si les mecs courent pas ensemble, s'il n'y a pas un peu une cohésion globale, et ben ça.
Et ce qui était frappant, c'était à la fin, alors je sais plus si c'est ce match ou non, mais je crois que c'est Lens, à la fin, il y a un coup franc qui est sifflé, et Senaya tombe, pensant que c'est la fin du match. Alors que non, c'était un dernier coup franc pour le Racing, suite à un hors-jeu, et l'attitude, hein, le regard. Par terre, il n'y a pas d'attitude positive au Racing.
Parce que Senaya, c'est comme d'autres, c'est un jeune joueur qui a besoin d'être encadré. Mmh. Et dans ces situations difficiles qu'il n'a jamais vécues, ils ne savent plus quoi faire. Donc c'est à ce moment-là que tu as besoin.
Senaya, il a quand même joué.
Avec la réserve,
ouais. Il a été prêté, non
c'est... Oui, il a joué à Rodez, mais bon, là, c'est un autre niveau. Ce que je veux dire,
Les situations difficiles, il en a vécu.
Oui, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que là, sur un match comme ça, quand t'as des attitudes de jeunes qui sont perdus et tout ça, c'est que t'es un mec, j'en citais un, mais ça peut être un autre, hein. Un Mitrovic, par exemple, il peut être limité comme il veut, mais c'est le mec qui, si t'as Senaya qui est au sol comme ça, il le prend par le col, il le relève et il
le lance. Non, mais l'attitude, c'est
Dimitri Diena, peut-être. Le match de Lille l'année dernière avec Candil.
C'était après le coup de sifflet final.
Ouais, c'était un peu différent. Mais...
Peut-être qu'il pensait qu'il y avait prolongation.
Oui, c'est différent. C'est l'anti-Senaya.
Mais l'attitude de tout le monde, hein. Je veux dire, non, y a pas que... ça manque de leader, est-ce ça que... manque de brouillard.
Tu parlais des mégas avant. Là, c'est sur ce match, je crois, où il passe. Je crois qu'il joue 70 minutes, d'après ce que j'ai vu avant.
C'est ça.
Coupé du reste de l'équipe, avoir des espèces de scuds qui lui passent au-dessus de la tête. Et même dans le jeu un peu en pivot, il est complètement dépassé. C'est que. On a remarqué qu'il n'est jamais à la retombée du ballon, en fait. Il y a des fois, il y a un défenseur qui le marque, on balance long parce qu'on ne sait plus quoi faire, et à l'arrivée du ballon, il y a son défenseur qui met la tête, et lui, il est à 15 mètres. Donc le temps que le ballon voyage, il arrivait mal à lire les trajectoires, et il était même pas là. Alors, est-ce qu'il aurait fait quelque chose? Peut-être pas, mais il n'est même pas à la retombée des ballons, parce qu'il
est peut-être myope.
C'est vraiment sur ce match, ça a exaspéré tout le monde là dans la tribune. Ils disaient, c'est pas possible, tu vois. Après, bon, cette espèce de ces dégagements, qu'est-ce qu'il aurait pu en faire de toute façon avec personne autour de lui. Mais ça faisait presque de la peine pour lui.
Mais c'est pour ça qu'il est rapidement sorti du match, hein, mentalement. Et quand il s'est fait remplacer, je crois il se prend un carton jaune parce qu'il est.
Il simule,
alors l'arbitre le fait sortir alors qu'il y a un bon coup franc pour le Racing.
Oui, parce qu'il s'est fait soigner.
Oui, donc oui, et comme il n'y a pas eu de carton jaune pour l'autre, il est obligé de sortir, en fait.
Et donc,
il prend un carton.
Carton mérité, hein, mais c'est-à-dire que déjà là, il n'était plus dedans. Et quand il se fait remplacer, il se fait siffler par la mélo. Là, on peut
Je me suis parlé du public sur ce match-là.
L'attitude du public, est-ce qu'il y a une révolte chez le public? Est-ce qu'il y a une résignation? Est-ce qu'une exaspération?
Plus une exaspération, parce que les gens sont commencés à partir de la 80e minute, j'ai l'impression.
Je n'ai pas vu, j'étais concentré sur le match, comme dirait Patrick Vieira.
C'est pas les premiers sifflets, hein. Contre Toulouse, je crois, le deuxième match, il y avait déjà des sifflets, contre Montpellier, il y en a aussi eu. Hein.
Ouais, mais là, c'était un peu plus.
Mais là, c'était plus.
Et c'est surtout que ça s'est vidé. Enfin, moi, j'ai rarement vu... Alors, on l'a revu, je crois, contre Nantes. Ça,
peut-être Nantes aussi, il y a beaucoup de monde qui est parti.
Ouais, il y a encore plus de monde, ouais. Mais vraiment, contre Lens, ça avait commencé. Genre 5-10 minutes de la fin, ça commençait déjà à se vider, notamment en tribune famille.
Sans parler des gens qui ne reviennent pas à la mi-temps. Enfin, moi je vois mes voisins de tribune, il y en a de plus en plus qui ne reviennent pas à la mi-temps.
Bah, il y a les tares flambées, il y a les frites.
Ouais, non, mais surtout quand t'as vu la première mi-temps.
Ça compte sur ton repère, là, quand on pas à la mi-temps.
Ah non, mais il reste dans le stade, le mec, il reste aux tares flambées.
J'ai une bonne anecdote sur les tares flambées. Un de mes voisins de tribune, hein, que je connais un peu, je l'ai croisé après le match de Nantes. Il m'a dit à la fin du match, de Lens, pardon. À la fin du match, on voulait se faire les tares flambées avec mes potes. Et les gars, ils disent, mais écoutez, on a plus rien. On n'a jamais autant vendu de tares flambées.
Pendant le match. Hein.
Et ils disaient même, pour la deuxième mi-temps, ils ont bossé comme des dingues. À tel point qu'à un moment, ils disaient, mais le match, il est fini. Non, le match n'est pas fini. Et du coup, ils ont fait, là, apparemment, contre Lens, leur record de vente.
Non, mais ça, franchement, ça illustre qu'il y a des chances qu'il y a des gens qui reviennent pas.
C'est ça le projet, alors. Faire de l'argent sur les tares flambées. C'est rembourser le transfert des mégas sur les tares flambées.
Moi, il y avait trois matchs où, des fois, je suis le seul à revenir. Les 3-4 mecs autour de moi ne reviennent pas.
Mais oui, un match, je crois qu'on a une occasion à la fin, une tête de Perrin qui est sortie par Samba. Mais...
On a deux tirs cadrés.
C'est qu'on a failli faire le hold-up, en plus, ça qui est fou. Mmh. Oui. C'est que Perrin, c'est quand même une super parade là, de Samba là-dessus. Mais on aurait pu encore s'en sortir. Et avoir un bilan comptable plutôt flatteur.
Mais heureusement, on n'est pas dans ce qu'on appelle le syndrome de Julien Stéphan, c'est-à-dire qu'il était toujours sauvé par une égalisation miraculeuse qui avait un peu masqué l'amplitude du désastre. Après le début un peu en fanfare, rien n'est épargné à Patoche, à Patrick Valium, comme tu nous disais avant.
C'est pas de moi. Hein.
Bah, tu peux citer l'auteur.
Hein. Je crois que c'est Mathéo, mais...
on pourrait le citer. Mais Patrick Valium, Mathéo, et si c'est pas lui, bah tant pis, on s'en fout.
On peut saluer Mathéo, qui est très en forme.
Voilà, et qui sûrement a autre chose à foutre que d'écouter Radio Ch'tou.
J'espère pour lui.
Patrick Vialium. Oui, donc là, tout roulait pour Patrick Vieira, c'est-à-dire c'était lamentable, mais on prenait point. Et là, c'est la catastrophe, ça se renverse, plus rien ne passe. Après cette défaite contre Lens.
Mais tu vois, on n'est pas Poissard non plus, hein.
Non, mais Jerry, il y a
plus que là, maintenant,
La réalité.
On a le score qu'on mérite.
On a le score qu'on mérite. Ouais,
et là, par contre, la comparaison avec Stéphan, pour moi, c'est pas. Avec Stéphan. Il y a eu des belles remontadas, mais le contenu globalement était quand même meilleur. Quoi.
Ouais, mais on était nuls quand même.
L'an dernier,
pareil, tu voyais ce que voulait faire Stéphane aussi.
Se barrer.
On prenait un peu, voilà. Tu disais, ah, mais pas de chance, il y a eu un but, il y a la VAR pour 2 cm contre Monaco, je sais pas quoi. Enfin, voilà, il y a été plein de blessés. Mais là, non, c'est. Là pour moi, il n'y a aucun scandale à ce qu'on perde tous les matchs qu'on a perdus.
Je finis mon morceau de saucisson.
Donc là, on bat Lyon, première journée, tout le monde est d'accord pour dire qu'on s'en sort assez bien.
On a été sauvé par Bellegarde, qui est parti entre temps, mais qui vous ramène, à mon avis, 4 points, si c'est pas 6 points.
Le syndrome Julien Stéphan, je veux dire, pour moi, c'est le match de Lorient avant la trêve internationale pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire, on vient de perdre à Ajaccio.
Oui.
Lamentablement, hein, rappelez-vous.
Honteusement.
On fait un match vraiment pas terrible, hein, genre où on mérite de perdre contre Lorient, et on égalise en toute fin de match et
Diallo, ouais.
Voilà, et du coup on est plusieurs à penser que c'est un peu ce qui sauve la tête à Stéphan, alors que c'est à ce moment-là il faut mieux perdre et lui couper la tête tout de suite en disant merci pour tout, ton chèque à la compta.
C'est ce qui sauve Stéphan réellement, enfin après ouais. Lui, il était vraiment sur la scène.
Voilà, ça m'a fait penser à ça la tête de Perrin, c'est on aurait pu se sauver le coup là non sur cette première fois, mais c'est la première et effectivement le contexte du jeu n'est pas du tout le même, je suis complètement d'accord. Ce qui nous amène à Nantes.
Ah.
Donc le
vendredi d'après.
Ouais non mais on va faire ce match, c'est le catastrophico. Mm-hmm. Hein, avec catastrophe et catastrophe de chaque côté.
Ouais.
Là, sur ce match, là, même, parce qu'en plus, on a eu une analyse tactique très poussée sur le Stubb. Mais c'est vrai que c'était assez, entre guillemets, intéressant de voir que Patrick Vieira tentait des trucs sur ce match. Donc, il avait ressorti son dispositif sur le papier en 4-3-3. Mais c'est un peu particulier parce que tu avais Doucouré dans son rôle de 6 qui devait glisser en défense centrale, d'être en hybride sur les deux postes. T'avais Senaya qui était aligné en même temps que Gilbert. Donc en fait, Senaya était un peu plus haut que Gilbert dans une position entre piston et relayeur droit.
Et il comprenait pas grand chose.
Oui, c'est déjà le jeu.
Il a plus parlé à Vieira pendant le match qu'il a touché le ballon.
Ouais, mais justement. Et Gamero qui était aussi aligné côté gauche. Donc en fait, c'était une espèce de 3-4-3 asymétrique, mi-4-3-3. Et effectivement, dans le premier quart d'heure, là, tu voyais souvent à chaque arrêt de jeu, Doucouré, Senaya, même Angelo Gabriel, qu'aller voir Patrick Vieira pour demander, coach, qu'est-ce que tu fais ?
On marque où ?
Enfin, c'était surtout une tactique complètement hors sol. Hein. Oui. Il a quand même commencé avec 7 défenseurs, il n'y avait aucun milieu.
Il y avait Diarra.
Je n'apprécie pas.
Non,
il y avait au milieu, il y avait Senaya, Doucouré, et puis Monga
était titulaire, ouais. Oui, t'avais.
Il y avait 7 défenseurs. Alors, à quel moment. À quel moment, dans un match de première division, tu peux espérer gagner un match avec 7 défenseurs?
Non, peut-être en MLS.
Si t'as des mecs polyvalents dedans, pourquoi pas?
Ouais, mais enfin, il faut quand même que t'aies l'un ou l'autre milieu.
Ça, on en reparlera tout à l'heure sur l'effet.
Mais non, tu nous as mangé un peu de temps. Et alors, tu parles de ton 4-3-3, 3-4-3, mais Delaine sur la gauche était absolument tout seul.
Ah non, moi je suis un anti-Delaine.
Ouais, non, mais alors Delaine qui était. Alors Delaine en plus.
Pourtant, il ressemble à David Lee. On pourra en parler dans le recrutement.
David Lee aujourd'hui, quoi, putain.
Puis Delaine a un problème, hein, c'est-à-dire que le ballon dans son dos, il se fait quand même vite prendre pour un défenseur. Hein, c'est un peu problématique. Hein.
Mais Delaine est effectivement plus haut que Gilbert.
Delaine était tout seul.
C'est pour ça que c'est asymétrique.
Et pourtant, cette première mi-temps se solde par un score nul et vierge.
Avec quelque chose comme 15 corners pour nous pendant la mi-temps. Hein,
et... Oui, on est quand même assez heureux. Mais après, du coup, dès la deuxième mi-temps, maintenant, t'en mets
là,
un.
Là, je fais l'erreur de revenir, je vois même pas le deuxième but.
Par Marcus Coco qui finit au McDonald's après le match, hein, près de la Mustard, hein, ah.
C'est le but de Marcus Coco, là, le...
Le premier,
mais
après, on l'a battu en finale de la Coupe de la Ligue, on a choisi.
Celui où Sels tire qu'à. Enfin, si Sels
repousse.
C'est le deuxième. Il y a trois. Sels, il repousse trois fois le ballon, non?
Oui.
Il y a un poteau, il y a Sels, il y a un sautage sur la ligne, c'est le quatrième tir. Ah, mais ça, c'est n'importe quoi, c'est pas normal.
Puis le premier, il y a Niamsi qui l'a mené, il l'a remis.
Oui, c'est ça, c'est Niamsi passe décisive.
On aurait dit Laurent Blanc, Pires ou Trezeguet sur le but en or de Laurent Blanc en 98.
C'est vrai qu'on l'a pas mis sur la fiche du Stubb, mais passe décisive de Niamsi sur le but de
Coco. Ah, Niamsi, il a quelques passes décisives.
Il fait un bon début de match, un bon début de saison.
C'est un cadre de l'équipe, si j'en crois marqué là.
Tout à fait, on en reparlera après.
Bon alors, Nantes, c'est les sifflets par contre, je crois qu'on peut revenir. Parce qu'au niveau du terrain...
Et là, le stade, c'est vraiment bien, bien...
Beaucoup de gens n'ont pas vu le but de Saï.
De Moïse. Qui, comme tout Racing, arrive au moment où...
Ça sert à rien.
C'est plus énervant d'en mettre un, en fait, que de pas en mettre, hein, parce que le match est fini. Quoi.
Mais je crois que même Fuser n'a pas fait sa célébration habituelle. Là, je dis, à but de Moïse Saï, basta. Ouais.
Même lui n'y croit plus.
Moi, j'ai toujours un souvenir énorme de mes jeunes années au Racing.
De film.
C'est un Strasbourg-Nantes où on perd, je crois, 2-0.
Le dernier match de Comboiré.
Non, je sais plus. Non, c'est peut-être plus tôt encore. J'en ai plutôt deux. Mais on perd un truc comme 2-0 et je suis en quart de virage sud-ouest. Et je suis véhiculé par des amis et en fait, à 2-0, ils veulent partir. Moi, je déteste partir avant la fin du match. Et bon, tout le monde se lève et tout le monde partait comme à l'époque où c'était courant. C'est aussi pour ça que c'est intéressant, c'est historique. Tout le monde partait et genre au moment où on se lève, on est dans l'escalier et là il y a Ibrahim Bagayoko qui réduit le score. Donc tout le monde est là. Mamadou, alors j'ai l'air con. Hein? Mamadou. Oui, Mamadou.
Bah, Ibrahim, qui a fini à Nantes, je crois.
Oui, qui est fini. Oui, voilà.
Mamadou, qui a marqué contre nous en 2003 le dernier match de combat.
C'est comme toujours.
Bah non, bah alors du coup il joue encore à Signe.
2004.
Et il marque, donc tout le monde est un peu là comme un con. Putain, là, je me suis levé alors qu'il reste 7 minutes à jouer. Et genre, dans la minute de l'engagement, Rennes met le troisième but et genre Nantes. Tout le monde est là. Hein? Non, non. C'était Rennes. C'était un Rennes. Rennes de la grande époque avec. Ah, le mec qui venait de Monaco là.
Monterubio, non.
Non.
Nonda.
Chabalilonda. Dans mes souvenirs, mais après je mélange un peu les années. Mais j'ai le souvenir d'être là, et en fait, là, dans, quasiment dans l'engagement, but de Rennes, et là, la méno se vide, mais genre, je pense qu'au coup de sifflet final, il ne restait plus personne. Voilà, c'était la minute historique.
Bon, il y a quand même un point positif dans ce match, hein, c'est qu'on n'a pas pris de but de Mollet.
Oui, quand même, oui, qui avait marqué 6 buts.
Ouais, sans doute, hein, mais qui chaque match en met un ou presque. Donc bon, ça c'est à peu près le seul point positif.
Au niveau des expected, t'as reflambé. On en était où sur ce match? Moi, je vais y aller au prochain match. Demander, genre, est-ce qu'il y a des stats?
Est-ce qu'à Nantes, ils ont battu le record de Lens, du coup, ça je sais pas.
Bon, après, c'est clairement, c'est à 15h, tu vois, je sais pas trop si les gens mangent autant de tarte flambée.
Ouais, mais quand il est. J'ai mangé une saucisse blanche pour ce match-là, pour une fois. Parce que c'était vendredi.
Moi, ce qui m'intrigue, c'est à chaque fois, quelle que soit l'heure, il y a des gens, ils prennent des saucisses.
Bah oui.
Mais non, à 15h, c'est quoi le concept quand tu manges une saucisse à la mi-temps du match de 15h? C'est plus le déjeuner, c'est pas le dîner.
C'est le goûter.
C'est quoi? Il est 15h50. Les gens, ils y vont en famille, ils achètent.
Mais j'ai pas acheté de saucisse à Meno depuis 2001. Je ne sais pas.
Ouais, mais voilà. les matchs le vendredi 21h, c'est pas terrible non plus quand on sort du boulot.
Si, mais il faut aller direct, il faut partir plus tôt et il faut aller manger une tarte flambée avant.
Oui, mais si tu sors directement du boulot que tu vas au stade, t'as pas mangé, donc il faut manger au stade.
Sauf si tu finis à midi.
Ah oui,
mais... Tu travailles à la CUS, par exemple.
Ah, mais oui, c'est le plus important.
Ah ouais, il faut être sérieux. Donc là, on commence quand même à sérieusement à douter.
Ben là, on a raté quand même le tournant, deux matchs à la Méno.
Deux défaites consécutives.
Des adversaires qui étaient quand même pas forcément très en forme.
Mais heureusement, c'est la trêve internationale.
Des matchs où, concrètement, je pense que sur les deux matchs réunis, on a peut-être quoi, trois occasions nettes.
Attends, je vais.
Voilà.
On a trois tirs cadrés contre Nantes et deux tirs cadrés contre Lens.
Ouais, c'est magnifique, ouais, c'est des bonnes stats, ça.
Attends, on a 1,2 XG sur les deux matchs.
Quand même.
Et on met un but.
Mais attention, comme tu dis, c'est la trêve.
On va bosser, on fait un petit match amical.
Ce qu'il y a, c'est qu'on se dit ça, enfin, les gens se disent ça, alors qu'en fait, tous les clubs vont faire pareil. Enfin, comme si on nous. Ça, c'est quand même un discours que j'ai toujours entendu, c'était on n'est pas bon et on gagne, mais comme on a des jeunes, on va forcément s'améliorer. Et donc, ça va être encore mieux.
Tu te dis, ça peut difficilement.
Mais comme si, les autres équipes, elles travaillent aussi.
En fait, on peut régresser
aussi, on peut.
On se fait une. Il y a beaucoup d'internationaux qui partent, surtout des jeunes, forcément, on a beaucoup de jeunes.
Et Matt Sells, qui est titulaire avec la
Belgique.
C'est vrai qu'on voit, on a beaucoup d'internationaux.
Ouais.
Il n'a pas eu de chance, hein, d'ailleurs, avec la tournée à Bruxelles.
Sa sélection a compté.
Sa sélection a compté, oui, parce que le match n'a pas été annulé. Arrêté, mais pas annulé.
Mais du coup, ouais, on a beaucoup d'internationaux, mais on va quand même faire un petit match amical pour se dégoûter les gens contre une petite équipe de Karlsruhe, des deux Allemands, 14e.
Voilà.
Et moi, jeudi à 14h.
Voilà. Avec du public.
Attends, c'était 14h.
Ouais, c'était en début d'après-midi. Ouais. Oui,
et moi qui était allé voir.
Mercredi.
Non, c'était jeudi.
C'était un jeudi.
Ouais, j'étais allé voir un match de Karlsruhe en début de saison pour voir un peu le stade fini et puis bon, pour l'ambiance, les saucisses qui sont beaucoup moins bonnes qu'avant. Ouais. Et j'avais vu un magnifique 3-3 contre. Celui-là d'avant. Ça, c'était 2-2 contre. 1-1 ou 2-2 contre le derby entre. Kaiserslautern et Karlsruhe. Ah oui. À Karlsruhe. Et donc un match fait, enfin où voilà, ça marque des buts, mais on se dit c'est très faible. Et en partant, je me dis ah, même le Racing pourrait les battre. Au niveau de la D2 allemand est très faible. Et ah, franchement, on n'est pas aussi mauvais. Et vient ce match amical. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Ah ben, on peut dire déjà 3-0 pour Karlsruhe avec un poteau en plus, une barre transversale en plus et un sauvetage de Gilbert. Et zéro tir cadré pour le Racing. Voilà.
Ça, c'est donc, expected goal.
Patrick Vieira était en colère après le match.
Oui. Voilà. Expected goal, 0, du coup.
Il y a peut-être eu des tirs à côté, ça compte comme des expected goals.
En colère. Bon, quand tu l'entends parler, ça aussi, entre Furlan et Janin, quand même.
Bon.
je sais pas trop quel projet on lui a vendu.
Entre Furlan et Janin, c'est Gilbert Grasse. Hein.
Non.
Bah, si.
Ouais, mais.
Ah,
Chronologiquement, entre Ferland et Janin, c'est Gilbert Grasse.
Il avait déjà fait 5 fois plus de matchs ou 6 fois plus de matchs.
Non, critiquez pas à Saint-Gilbert sur les trucs. Je parle de la chronologie, bien sûr.
On parlera peut-être après, mais je sais pas trop quel projet on lui a vendu. Hein, mais en tout cas,
On en parlera. On peut maintenant. Enfin, donc, toi, à tort, tu as vu le match.
J'ai vu le match au bureau, oui, parce que c'était avec un.
Tu vois, si tu regardais pas les matchs au bureau, tu serais à l'heure pour manger les tartes flambées.
Tout à fait. Bah non, parce que c'était après.
pour le prochain match.
Voilà. Je regarderai plus les matchs amicaux au bureau. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'était extrêmement faible, ça piquait les yeux. Donc j'étais content d'entourer mes feuilles Excel après.
Mais c'est une équipe un peu bis quand même.
Bah, il y avait quand même pas mal de titulaires. Alors effectivement, il y avait un Gabin Sabatier qui est le gardien.
Charles Sabatier. Jean-Charles.
Qui est le gardien plutôt remplaçant des U19.
Ouais, donc on a joué avec le gardien remplaçant des U19.
Mais est-ce qu'on peut tirer vraiment des conclusions d'un match comme ça en fait? Parce qu'on jouait avec.
Attends, rien que la défense, t'avais une ligne de 4 avec Gilbert, Perrin, Doucouré et Sobol. C'est des professionnels assez confirmés quand même. T'as Mwanga, Deminguet au milieu de terrain. Alors oui, t'avais Ouattara, mais qui est pas un des meilleurs joueurs de la réserve en ce moment. Mm-hmm. Et t'as Mbakwa, Gamero devant avec Jérémy Sebas.
Il y a personne qui est rentré d'ailleurs.
Et qui a créé une occasion. Voilà.
Le créateur.
Ah, donc on a quand même une occasion.
Ouais, et j'ai comme envie de dire, Mohamed Béchik, l'attaquant de la réserve, a touché le poteau. Voilà.
Ah, ouais. Voilà. Il faut être honnête.
Voilà, faut voir le positif.
Faut être honnête.
C'est le tournant.
Pourquoi on s'inquiète? Mohamed Béchik a touché le poteau. Mais qui est très bon en ce moment, Mohamed Béchik.
Bon, du coup, le prochain match amical, c'est contre Chiltigan, c'est ça? On baisse un peu pour
eux. Ils sont R1 Chiltigan.
Ben oui.
On baisse de Bichheim peut-être.
Bichheim, bien sûr.
Soleil. Oui, le Mars n'existe plus.
Exact.
Petite.
Et donc, on arrive à Paris?
Bah, on arrive à Paris confiant, reboosté par la trêve. Entre-temps, est-ce qu'on peut dire que si j'ai bien lu mon info de l'équipe que Robin Risser a défié Kylian Mbappé à l'entraînement à Clairefontaine?
Tout à fait. Ben, Didier Deschamps a épioché le meilleur gardien français du moment. Mais c'est parce qu'il était en espoir et ils avaient besoin d'un gardien pour une fin de séance d'entraînement.
Voilà. Mais ça fait plaisir pour Romain Rissard.
Qui a sa place. Et qui fait Et
comme Matzels va se barrer.
Bon début de saison à Dijon. Malgré
que Dijon fait pas un bon début
de saison. Dijon fait pas un bon début de saison, mais c'est une rare satisfaction.
Mais Rissard, oui, il est jeune, c'est bien. Il peut rentrer tout à fait dans le projet.
C'est en 2004.
Attention, il faut qu'il se dépêche parce que.
Parce qu'après, on va recruter un gardien 2006 pour mettre titulaire.
Et donc, du coup, on se présente au parc avec les DNA qui enfin font une introduction digne de Racing Stube en disant que le Racing n'a jamais battu le Paris Saint-Germain au Parc des Princes.
Ouais. 32
en championnat.
32 matchs avant ce match. Hein. On n'est pas encore le résultat final. Mais
voilà. Donc, bah écoute, c'est le même que contre Karlsruhe. Spoiler.
Et on a Gilbert
hors du groupe.
Hors du groupe.
Ouais.
C'est vrai.
Ça sur la ligne contre Karlsruhe, tu sors.
Oui. Mais qui c'est un peu plein sur les réseaux sociaux, visiblement. J'ai pas vu le post, mais.
C'est pas ce genre, ça.
Quoi, Gilbert sur les réseaux sociaux?
Non, mais je suis ironique.
Bah oui, justement.
Alors, il s'est dit, qu'est-ce qu'il a dit?
Ah, je sais plus exactement ce qu'il a.
Il a dit, non, ouais, il a dit, j'ai aussi vu un truc passer.
Ah, il te fait un truc.
Qu'est-ce qu'il a pu dire?
Ce qui ne te tue pas te rend plus fort.
Un truc dans le genre, ouais.
La retour, on va tourner. Bon, en tout cas,
quoi qu'il arrive, crois en la vie, crois en demain, crois en ce que tu fais, crois en Blue Coke, mais surtout crois en toi. Personne ne me fera douter.
Oh,
voilà. Ah, c'est beau. Je vais regarder sur ton Skyblog. Hein, ce qu'il a mis.
Et d'après Kader Mangan dans les DNA d'aujourd'hui, c'est un problème personnel qu'il a tenu le Nieter. Enfin, j'ai lu ça dans les DNA, dans l'entrefilet.
C'était Gilbert, non, c'était Deminguet qui avait un problème personnel.
Ah, ouais, bon, c'est pareil, c'est les mêmes.
Ils sont de camp.
Ils sont frères, fils et frères.
Bah, Deminguet vient d'une famille avec 11 frères et sœurs.
Voilà. Bon.
Donc le PSG, c'est. c'est vrai.
De camp. Ils sont
normands.
Normands.
Parce qu'ils viennent de Lisieux.
Le Chervillers.
Donc le PSG, on aborde en 4-3-3 également, mais plutôt c'est plus un 4-5-1 qu'un 4-3-3, parce qu'on avait Deminguet justement sur le côté gauche, qui avait été titularisé en fait pour bloquer Hakimi. Sauf que finalement, Hakimi n'a pas joué.
On avait Senaya au milieu l'autre fois, maintenant on a Deminguet côté gauche.
On a mis Delaine à arrière-gauche et Deminguet juste devant lui pour bloquer le couloir. Parce que Patrick Vieira avait identifié que Hakimi...
Et il n'y avait pas Dembélé non plus, en plus.
Et il n'y avait pas Dembélé.
Ouais,
parce qu'en plus, Luis Enrique a fait une espèce de trompe hyper bizarre avec Solaire... Piston droit, milieu offensif.
Donnarumma arrière gauche. Bon, il s'est dit tranquille.
Ouais, c'est plus facile de faire des compos à la con quand t'as Mbappé devant.
Oui, c'est ça.
Nous, avec Habib Diallo, on pouvait faire n'importe quoi aussi. Hein.
T'avais Likanguin qui était titulaire, t'avais Soler et Ruiz qui étaient titulaires.
Enfin, voilà, une équipe un petit peu remaniée quand même.
Voilà. Et nous, Patrick Vieira, donc il lance cette espèce de 4-5-1 avec Bakou à côté droit, avec. C'était Motiba qui était titulaire.
Hein. C'était Motiba qui était devant.
On en reparlera après sur la
Il n'était pas annoncé, puisqu'on avait annoncé Saï, je crois.
Ouais,
dans les, dans
ils,
les
avaient, ils avaient testé Saï à l'entraînement en pointe.
Hein. Mais ça, c'était pour faire peur au PSG, hein, parce que premier ballon touché en pro, but. Ouais. Il pouvait trembler, hein, Paris. Et donc, nous aussi, hein, puisque Luis Enrique avait donc dit que Strasbourg, c'était plus difficile que Milan. Hein.
Et que, alors que c'est pas vrai.
Rivera était un bon entraîneur.
Voilà, donc,
ouais. Alors que c'est exactement la même chose, hein, Strasbourg, oui. Milan, c'est le même
c'est
score.
Ça, même score, ouais. Voilà.
Et ça, vous savez pas encore.
Donc, peut-être le Racing qui est au niveau de Milan, en fait. Hein.
Et donc on commence, au bout de 10 minutes, on concède un pénalty.
Voilà,
Julien Manga.
Un pénalty bête, que moi, un joueur manga, je n'ai rien contre lui, mais je ne le trouve absolument pas bon. C'est pas le seul, hein, mais.
mais
Manga.
Alors là, particularité.
Après, il joue pas à son poste. Hein,
ouais, particularité tactique aussi, Manga, là, il jouait en 6, et Doucouré jouait un peu plus haut. Enfin, du coup, il a remonté d'un cran, il est joué deuxième 8 avec Diarra.
Ça peut être pas mal pour le vendre, ça. On peut vendre un type qui joue défenseur central 6-8, ouais. Peut-être avançant. Hein. Puis il va assez vite hein, pour le tester aussi. Hein. On a deux ailiers dans l'équipe.
Tout à fait. Patrick Diarra n'écoute pas, hein. Heureusement.
Ah, ça, on sait pas.
Je sais pas.
Il devrait écouter.
Patrick, c'est du Voilà, donc un but un peu, un penalty toujours, c'est toujours un peu idiot. Ouais.
Forcément, ces matchs comme ça à Paris, si au bout de 10 minutes il y a un 0, bon bah.
C'est déjà pas évident.
Tout ton joli plan de serrer les fesses, d'arriver à la mi-temps avec 0-0 et sait-on jamais.
On va voir ce qui va se passer.
Ça tombe à l'eau, quoi. Et là, faut jouer au ballon. Enfin, même pas, en fait. Parce que, parce que Paris a pas changé grand-chose, de toute façon.
Mais on a égalisé, juste après.
Oui.
Ouais, mais oui.
Mais hors-jeu.
Mais est-ce qu'il y a... Alors, je n'ai pas revu les images du hors-jeu.
Mais oui,
il y a hors-jeu. Mais évidemment que non, bien sûr que non. Il n'y a jamais hors-jeu. Ça, c'est l'argent qui achète, c'est l'argent du Qatar.
Par contre, le deuxième but de Paris, il y a une position.
Il est sur la même ligne.
On n'a pas les bonnes images. Oh. Alors, on n'a pas les mêmes images que le camion noir, hein, mais bon.
Si, c'est
le
même. Ah.
Bon, bref.
Bon, après, vous l'avez voulu l'avoir.
Non, pas voulu,
pas,
hein.
Non,
ils accordaient quand même les buts au PSG avec ou sans la barre, donc ça ne change pas grand chose. Bon, après, on se dit, le but maintenant, c'est pas de prendre une déroute. Ouais. 3-0, ça remet pas en cause le projet. Hein.
Bon, puis ce qui est bien, c'est comme Paris jouait 3 jours après, tu sens qu'ils ont un peu levé le pied, quoi. Hein. Ah bah. 3-0, hop là, ça suffit.
Et à 3-0, vous savez qu'il y a profité pour bien nous humilier.
Ouais,
voilà,
les lignes qu'on voit pas.
Puis l'autre, le jeune Cheikh
Ndour.
Cheikh Ndour, alors qu'il y a un vrai Ndour.
Cheikh Ndour italien.
Voilà, Cheikh Ndour italien qui rentre. Mm.
C'est une contrefaçon italienne, ça, encore c'est.
Attention, Pierre Ménès écoute. Oui. Mais effectivement, il a fait tourner, il a fait rentrer Dembélé et Kolo Muani qui ont fait une entrée catastrophique.
Dembélé, je trouve mauvais.
Ouais, Dembélé, il ratait tout.
Le nombre de pertes de balles là. Ouais.
Mais c'est pas normal ça pour Dembélé?
Si.
Parce qu'à un moment, il a été bon.
Bah, quand il était à Rennes, à Dortmund, sa première année.
Mais en fait, je crois qu'il est nul, en fait.
Ouais, bah, c'est ce qui me semblait depuis longtemps, en fait. Mais...
Un peu âgé, en tout
cas. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de négocier un prêt pour la deuxième partie de saison?
Avec le Scornet, hein. Le Scornet l'a eu en jeune, à Rennes.
Ah, voilà.
Ah, bah, voilà.
Mais le Scornet, il est encore chez nous. Il est, enfin, il est pas chez nous. Il est en Bretagne chez sa maman. Mais
ouais,
il
ont trouvé un vrai poste.
Ouais, mais il doit télétravailler depuis chez sa mère.
Il est en charge de la passerelle entre les jeunes du Racing et l'équipe première. Donc ils font des matchs amicaux de temps en temps.
Ah ouais. Et puis après, c'est lui qui achète les bouteilles d'Orangina et de Coca, c'est ça. Voilà.
Donc, oui, avec Kurzawa qui rentre, hein, du coup. Il se fait siffler aussi, hein, faut quand même.
Voire ovationner de façon ironique. Voilà, c'est un peu spécial. Enfin, je sais pas vous qui.
J'ai pas trop suivi la deuxième. Alors, j'avoue, de la deuxième mi-temps, j'ai discuté avec Eric Cantona.
Ah,
d'accord.
Le stoubiste, hein, pas le vrai.
Ouais. Est-ce que c'est pas la même personne? On sait pas encore. De plein de choses, notamment de Vincent Sinclair, de José Cobos. Et
Frédéric Johansson.
Voilà. Donc,
Et moi, pour revenir à. J'avais quand même un tout petit motif d'espoir, mais vraiment, je m'étais dit, j'ai l'impression que Habib Diarra est en train de retrouver. Sur la deuxième mi-temps. Il retrouve un peu son bon niveau de jeu. Et bam, il est blessé. Voilà. Donc les motifs d'espoir du coup sont quand même maigres.
Il n'y a plus d'espoir.
Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, comme dirait Pierre Ménez.
Pierre Ménez qui ne sait pas ce que c'est que Radio Ch'toul, hein, parce que l'autre fois on l'a encouragé à écouter, il nous a répondu, c'est quoi ça?
C'est quoi? Et qui demande à son chien, parce que sur ce moment-là, il écoute Radio Ch'toul. Donc on a fait un petit peu le tour, l'analyse tactique, stratégique des matchs. On s'est régalé. But hein, sur tous ces matchs.
Deux buts.
Non, hein non. Ah oui, il y a Metz. J'ai oublié Metz. C'est vrai qu'on a gagné Metz.
Plus multi-ball, but en jeu. En gros, on t'a moitié quand même. Voilà. Deux buts et demi.
Mais la question
qui se pose de Béchic, on peut le
dire. La question qui se pose maintenant, c'est Vieira démission.
Vieira démission.
Donc, j'entends d'ici et là, derrière au guichet de poste, sur les comptoirs des PMU du Neudorf, que là, c'est Patrick Vieira qui est nul. Il est meilleur, voilà, il est meilleur joueur qu'entraîneur.
Oui,
bon, ça.
On s'en est tous d'accord. Non, mais non, la question, effectivement, c'est avec cet effectif, on en parlera plus tard.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Alors moi je pense qu'on pourrait quand même faire mieux avec cet effectif, même si l'effectif est quand même très mal construit.
Déséquilibré.
Mais il fait quand même, à tous les matchs, il nous sort des trucs assez improbables. Donc moi j'actionne la guillotine.
ce qui pose problème, c'est que c'est un nouvel entraîneur, il a eu les mains assez libres cet été, puisqu'on a renouvelé l'effectif. Effectivement, on en reparlera. Mais en plus il y a des jeunes. Les jeunes par définition sont plutôt malléables. C'est pas un Gilbert que tu vas prendre à être des schémas hybrides. Alors que des jeunes, ça ils.
C'est ce que disait Francisson. Oui.
et en fait là on a joué quand on a joué 9 matchs si je ne m'abuse. C'est ça.
Seulement.
9 matchs de championnat. Oui c'est bon.
Seulement.
Et on ne voit toujours pas ce qu'il veut faire, parce qu'il a déjà changé sur les plusieurs fois de dispositif. On est sur un 4-3-3, on l'a dit juste avant.
Mais ce n'est pas des vrais 4-3-3.
Ce n'est pas des vrais 4-3-3, c'est des 4-3-3 avec des animations qui changent. On a commencé avec un 3-5-2, on a tenté un moment un 3-4-3, enfin voilà. Il n'a pas d'idée directrice.
Je ne sais pas trop où tu vois les animations, parce que c'est plutôt soporifique.
Non mais sur le papier, tu peux voir enfin, l'espèce de... On voit ce qu'il voudrait faire,
on devine ce qu'il voudrait faire, mais par contre personne ne... ça marche pas.
Voilà.
Et... Vous voyez vraiment ce qu'il voudrait faire?
Non, ah oui, au début du match.
Non, mais quand tu vois Senaya et Gilbert contre Nantes, bon, il faut quand même attendre un quart d'heure pour essayer de comprendre, mais t'arrives à le deviner.
Mais...
Enfin, si ça se trouve, on devine mal, hein. c'est quoi, pas ça.
Mais c'est quoi le truc?
Non, mais ce qui est
inquiétant... Que Laurent Blanc fasse ça avec Reveillère et puis Debuchy, quand tu allais scorer avec Silva et puis Jordi Alba, je comprends.
Mais non, mais là, tu comprends et tu sais que c'est de bonne ou mauvaise idée. Mais là, c'est pareil. Non, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, il y a eu ces 9 matchs de championnat, il y a eu toute la préparation, il y a une préparation complète avec un effectif quasi complet, hein, parce qu'on a recruté assez tôt. On a perdu des joueurs, on a perdu des gardes.
Préparation, pas de blessures.
Pas de blessures, enfin, les conditions assez optimales.
On n'a jamais aussi bien commencé, enfin, on n'a jamais autant de cartes en main pour commencer une saison.
Et au bout de tout ça, on ne voit toujours pas quelle est la ligne directrice.
Et j'ai l'impression qu'il a déjà actionné un peu les leviers habituels quand ça ne marche pas. Au bout d'un moment, tu changes de schéma tactique. Ouais. Il l'a déjà fait.
Tu vires Gilbert.
Il l'a déjà fait 3-4.
Tu changes de joueur, tes cartes, tu restreins le groupe.
T'as l'impression que, si, à part relancer peut-être des certains bannis,
Persich.
Il a quasiment tout tenté déjà.
Ouais. Et sans réussite et sans ligne directrice, sans colonne vertébrale, tu compares avec d'autres entraîneurs qui sont arrivés cet été, par exemple Farioli à Nice. Alors, c'est pas flamboyant, mais il y a déjà une structure. Pareil, le mec à Toulouse, bon, il était adjoint, c'est un peu différent, mais il y a une structure. Il y a quoi encore comme nouveaux entraîneurs qui sont arrivés cet été?
Louis Cédric.
Oui, bon, après, c'est un autre niveau. Mais pas vu
la structure sur le dernier match, mais.
Ouais, mais tu vois à peu près ce qu'ils veulent faire. Ils sont plus maintenant dans la transition que.
Ouais, parce que ballon Mbappé, ouais, voilà, c'est bon.
Oui, mais au moins, il a un peu tâtonné au début, comme tous les nouveaux entraîneurs, mais
oui, bon,
tous ces nouveaux entraîneurs, ils ont déjà quelque chose. Au Racing, t'as l'impression qu'il n'y a même pas la base de sur quoi s'appuyer. Et là, le match prochain match à Rennes, le prochain match contre Clermont,
on va parler un petit peu des matchs à venir, mais Rennes, on va dire, c'est pas le truc. À part que Rennes, on peut relancer Persich, c'est une bonne idée, contre son ancien club, ça marche toujours.
Oui, mais ça, c'est quand même
contre nous.
Donc là, si on relance Persich, c'est-à-dire que tu l'as écarté pendant 5-6 matchs, il est revenu un peu dans le groupe, mais tu vas le ressortir d'un coup parce que
pour rigoler,
tu
sais pas quoi faire. Pour rigoler, il a déjà eu une promotion dans le groupe. Ouais,
ouais, mais voilà. Ouais,
non, mais que Vieira a une part de responsabilité, ça c'est sûr.
Mais est-ce que, est-ce qu'on, enfin... donc effectivement la question que Rachma a posée, c'est est-ce qu'on peut, enfin même il a répondu, on pourrait faire mieux avec un autre entraîneur que Vieira. Mais on pourrait peut-être pas faire beaucoup mieux, mais on peut difficilement faire pire dans le contenu.
On peut toujours faire mieux.
Tu peux faire plus cohérent et un peu moins.
Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à des basiques? 4-4-2 pour bien contre-attaquer et
mais le basique, c'est avoir des joueurs. Quand tu vois le milieu de terrain qu'on a aujourd'hui, c'est pas un milieu de terrain de Ligue 1 qu'on a. On n'a absolument aucun joueur.
Oui, mais si t'as pas de
quand milieu de terrain. Quand tu regardes des fois des joueurs comme défendre, voilà, comme Niamsi, ça, à mon avis.
Ah, c'est... Alors, restons sur Patrick Vieira.
Dans ce cas-là, si t'as pas de milieu de terrain, si t'as trop de défenseurs centraux, repasse en 3-5-2. La plupart des effectifs, c'est jouer en 3-5-2. Ça peut être moche, mais moi, t'as déjà ta base.
On n'a rien au milieu. Qu'est-ce que tu
veux dire? Alors, t'as besoin de deux milieux de terrain.
Je propose qu'on clôture le cas Vieira, parce que je pense qu'il est sans appel. Il n'y aura même pas de pourvoi en cassation.
Moi, je suis le seul qui
ouais, voilà, je pense que. Est-ce que vous actionnez la
guillotine? Juste une dernière remarque. Je pense que Vieira, c'est le bon alibi pour le projet Blueco, etc. Parce que, comme ça, il y aura toujours une partie du peuple qui pourra dire que c'est de la faute à Vieira, qu'avec un autre coach, on serait deuxième derrière Nice ou derrière Monaco.
Donc, guillotine aussi, Calcio ?
Mais oui, guillotine aussi.
Alors, la vraie question, la deuxième question qui entraîne toutes les autres, j'ai l'impression d'être JP Darky là, avec les connexions qui se font. Qui peut actionner là, la guillotine pour Patrick Vieira ?
Tu t'avances un peu trop.
Ah, est-ce que vous pensez que Marc Keller peut virer Patrick Vieira ? Ou est-ce qu'il n'en a plus le pouvoir?
Marc Keller est président exécutif, il l'a répété.
Oui, moi je pense qu'il
peut le faire. Ouais. C'est Marc Keller qui a recruté Patrick Vieira. Hein. Ça c'est.
C'est sûr ça.
Et il l'assume aussi. C'est une décision de Marc Keller de recruter Patrick Vieira. J'ai validé, mais oui.
J'ai entendu exactement la même version. C'est Marc Keller qui a proposé Patrick Vieira, ça a été validé.
Voilà.
Mais est-ce que si Marc Keller propose la démission de Patrick Vieira, enfin ou le licenciement, est-ce que ça sera validé? Ou est-ce que Patrick Vieira correspond totalement au projet de Blueco, c'est-à-dire faire jouer des jeunes et le reste on s'en fout.
Je pense que ça peut être validé par au-dessus, mais par contre Marc Keller va perdre quand même en crédibilité vis-à-vis de sa hiérarchie, parce que finalement il a recruté un entraîneur et un staff assez conséquent. Donc là tu vires Vieira, tu vires aussi tout ce staff, ça fait une perte sèche d'argent pour des financiers qui ont surtout ça en ligne de mire, ça passera pas. Et donc, ça serait pas étonnant que une fois Vieira viré, Marc Keller n'ait plus forcément les mains libres pour choisir un nouveau coach. D'autant que dans le conseil d'administration de Racing, tu as les deux directeurs sportifs de Chelsea. Voilà.
Tic-tac.
Paul Winstanley et Laurent Stewart.
Voilà. Donc, à Radio Stub, nous sommes pour se séparer de Patrick. Tant qu'il est encore temps, j'ai envie de dire.
Bah là, on va peut-être attendre le match
de Clermont.
Non, Rennes, je pense qu'on peut tirer un trait dessus.
Mais Rennes, c'est mort. C'est Clermont qui va.
Clermont, tu perds. Oui.
Est-ce que Patrick Vieira, est-ce qu'il peut survivre à, donc ça ferait quoi, 5 défaites d'affilée?
Clermont, après il y a Brest aussi, et puis après on reçoit Marseille.
C'est une autre question. Est-ce qu'on peut encore gagner un match en 2023?
Mais ce qui est terrible, c'est que on arrive au stade où les mecs qui jouent pas, en fait, gagnent du crédit.
Oui.
À chaque fois, on avait ça un peu en dernier moment. Quand il y avait avec Ronel, Pierre Gabriel, enfin, tu sais, avec Dagba en concurrence, le mec qui jouait perdait des points. Non, putain, faut faire jouer l'autre. Alors du coup, il faisait jouer l'autre. En fait, ah bah non, c'est pas possible.
Il y a quand même des choix.
Le mec, Persic, qui n'a pas mis un pied sur un terrain quasiment depuis 2 mois.
Qui a joué 88 minutes.
Et bah sa cote, elle grimpe.
C'est plus la cote des autres qui descend.
C'est ça, mais, en fait.
Mais le résultat est le même.
C'est mieux vaut que pas jouer, en fait.
Voilà.
C'est peut-être pour ça qu'Aoulou joue pas. Hein. Même être dans le groupe, c'est plus bon en ce moment. Hein. Donc,
Aoulou et Bastien sont...
Après, il y a quand même des choses...
Enfin, Bastien aussi.
Bastien est écarté, ouais.
Pourquoi il sort avec Aoulou en boîte aussi?
Non, Bastien est sérieux, il s'avère.
Pourquoi il est écarté, Bastien?
Parce qu'il y a 3 arrières à gauche. Et on fait pas jouer meilleur. Donc,
Bon, alors, ça tombe bien.
Il y a des choix quand même. Quand tu vois Sissoko qui rentre à la 81e à chaque match, alors qu'on perd, hein, quand même. S'il rentrait parce qu'il fallait bétonner, c'est une chose, mais Ça, c'est des choix. Enfin,
c'est un créateur. Moi, j'ai quand même une question avant.
Ouais,
qu'est-ce que vous feriez à la place de Vieira pour les deux prochains matchs?
Je démissionne.
Non, mais vraiment, t'es en poste. Qu'est-ce que, avec les joueurs que t'as, avec ce que t'as sous la main, tu fais quoi?
Avec le Covid.
Moi, je suis un 3-5-2 plutôt basique.
Et tu mets qui? Alors, parce qu'on parle beaucoup du milieu, tu mets qui?
Au milieu?
Moi, je mets franchement.
Alors, Romi Diarra, s'il n'était pas, pas blessé, mais effectivement, tu peux mettre Sissoko. Et franchement, en 3-5-2, pourquoi pas Demingue? Et derrière. Oh, non, en 3-5-2. En 3-5-2. Et derrière, tu peux mettre. Doucouré, Monga et Niamsi.
Moi, au point où on en est, je relance Aoulou et Persic.
Ah, putain,
et un milieu non, moi, bien dégueu, Sissoko, Aoulou, Persic.
Aoulou, je pense qu'il est là.
Non, il est blacklisté. Hein.
Et devant, tu mets qui?
Devant, qui je mets?
Si tu mets dans ton 3-5-2.
Et Mega, Gamero, les deux en pointe.
Moi aussi.
Et Senaya, Sobol sur les côtés.
Oh, Sobol.
Ah, moi, je suis soboliste. Soboliste convaincu.
Non, mais. Ouais.
J'aime pas de l'air. Mais voilà, enfin, moi je mettrais ça 3-5-2, quelque chose de basique, des consignes assez claires, bien comprises. Et tu fais ça à Rennes, t'as rien à perdre.
Et 4-4-2 à plat.
Mais tu mets qui au milieu?
Sissoko, Persic.
Aoulou.
Aoulou, non.
Côté gauche.
Côté gauche.
Bah, tu es Patrick Vieira, donc tu peux tenter.
Non, je. Au point où on en est, je pense que effectivement, il faudra peut-être relancer des milieux qui jouent pas.
Mais tu le relances pas comme ça du jour au lendemain, il passe pas de la cave à titulaire.
Non, mais ça tu le mets sur le
banc. Mais l'entraîneur aussi, ça fait partie aussi de son boulot, de dire attends, les mecs ils sont au placard depuis 2 mois, enfin, maintenant je vais essayer de. Peut-être que j'en aurai besoin un peu plus tard à la saison.
Ou alors c'est une technique pour les virer, hein, moi je sais pas. Mais,
non,
c'est quand même, pas. Mais je veux dire, Aoulou par exemple, qui n'est même pas dans le groupe alors que. Enfin, on a quand même joué des matchs avec Aoulou qui n'est même pas dans le groupe alors qu'on joue sans aucun milieu. Ben, c'est quand même quelque chose d'incompréhensible pour moi.
Bah, à Paris,
peut-être qu'il est pas sérieux.
À Paris, tu joues Mwanga et tu courais au milieu. Sur les 3 du milieu, t'as 2 défenseurs.
Mais oui, c'est ça. Et puis t'as 2
milieux. Aoulou a déjà marqué à Paris.
Oui.
Et si ça compte?
Et toi, tu mets qui alors?
Non, mais moi, j'utiliserai plus Sissoko. Non, mais.
Faut juste qu'il touche des ballons, quoi.
Non, mais, ouais, non, mais franchement, mais, non, mais après, mais... Il a quand même quelques références en Ligue 1 et un peu d'expérience.
Il est quand même là depuis 4 ans ou 5 ans.
Mais il a 150 matchs.
Je pense qu'il ferait pas pire que.
Mais non,
que
Demingue. C'est moi, je. Non. Mais Demingue.
Même Percy, je pense qu'il ferait pas pire que.
Bah, Demingue, c'est un bon joueur, mais c'est un joueur de Ligue 2. Hein. C'est un mec qui n'est pas. Plus le match passe, moins tu le vois, hein, Demingue.
Ouais, mais ça,
il a 11 frères et sœurs.
Mais dans un effectif équilibré, ça serait ta première rotation ou ta deuxième rotation.
En fait,
on l'a proposé de titulaire.
C'est de mieux.
Bien sûr. Mais ça interroge sur le recrutement. Alors on se dira que c'est pas un.
Bim, le recrutement, mais oui.
La transition.
Désiré, démission.
Désiré, démission.
Loïc Désiré, porté en triomphe
au pinacle.
Voilà, je cherchais le mot, au pinacle. Dans les premières années, quand on recrutait avec un Mars et une flamme cuche, qui a fait des très très bons coups, est-ce qu'il est devenu mauvais? Est-ce que c'est lui qui a fait le recrutement cet été? Est-ce que c'est un faux Loïc Désiré? C'est un mec avec un masque qui se fait passer pour lui pour dire oui, bien sûr, je suivais Angelo Gabriel depuis qu'il a 2 ans.
Ah ben Angelo Gabriel était réellement suivi après.
Par tout le monde.
Il était suivi par tout le monde. Chelsea le connaissait aussi. Mais en tout cas, c'est lui qui a fait le recrutement. Marc Keller, il a encore une fois été.
Ça, c'est ce qu'ils disent ou
oui.
C'est vrai.
Je peux entendre le contraire. Mais ce qui.
Après Marc Keller, c'est le mec qui a repris le club en CFA.
En CFA.
En CFA 2, il dit.
Oui, c'est ça.
Oui.
Bah oui, donc on peut toujours arranger
à la vérité.
On peut toujours arranger l'histoire. Genre, tu peux dire, tu connais Angelo Gabriel, ouais, bah ça tombe bien parce que Chelsea l'a acheté.
Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est que tous les ans avec Désiré, en général, moi j'ai toujours compris ce qu'ils avaient voulu faire.
Oui.
Après, parfois ça marchait pas, genre l'an dernier, bah, ils arrivent pas à vendre à Jorge, ils arrivent pas. Et du coup, ils veulent recruter tel profil parce qu'il y a un besoin, mais il n'y a pas l'opportunité, du coup ça se fait pas. Voilà, il y a des choses, on n'a pas forcément ce qu'on veut, mais c'était assez cohérent. Et là, Franchement, c'est complètement incohérent.
Mais la logique, oui, c'était
rajeunir. C'est pas eux qui ont fait ça, c'est pas possible.
Bah, ils peuvent aussi être incompétents du jour au lendemain. Enfin.
Oui, oui.
Là, parce que là, les consignes Marc Keller, c'était on recrute des jeunes.
Est-ce que c'est vraiment...
Juste quand le club te racheté, tu deviens incompétent.
Et juste quand...
C'est bizarre.
Bah, c'est aussi un peu le syndrome du joueur du gagnant du loto. Ouais, t'as beau être hyper raisonnable dans ta vie, faire bien les choses... Tu gagnes le million le lendemain, t'achètes ta Bugatti Veyron.
On va pas me faire croire qu'à un moment
donné... Mais c'est un bon recrutement, la Bugatti Veyron.
En recrutant que des jeunes, sans aucun joueur d'expérience, les jeunes prendraient de la valeur. Mais ça, enfin, dans le bureau du Racing, tous les gens qui sont restés...
Kader Mangan.
Doivent le savoir, c'est pas possible autrement.
D'autant que Marc Keller joue au foot accessoirement.
Voilà. Et qu'il sait ce que c'est que la Ligue 1, parce que la Ligue 1,
alors,
on se moque de la Ligue 1, c'est quand même pas un championnat aussi
bien que ça. Ouais.
Je veux dire, à quel moment on avait des gens ont pu se dire qu'en recrutant que des jeunes, ça marcherait?
Eh ben, réponse de Marc Keller, encore une fois ce matin au micro de Louis Rousseau, il disait qu'il estimait qu'ils avaient les cadres. Avec, il citait notamment Delaine en exemple. Alors moi je suis pas du tout d'accord, mais bon, c'est
est-ce qu'il a cité Sissoko?
Bah, il a cité ces joueurs-là, Niamsi, Perrin, Sissoko, Sels. Il estimait qu'il avait ces cadres-là, qu'il devait reprendre le rôle des anciens cadres qui étaient à jouer.
Là on est d'accord. C'est dans une émission radio. On voit pas le mec qui tient un flingue sur la tête de Marc Keller pour lui faire dire.
Il y a Bali derrière lui.
Moi j'ai une question Radio Stube qui m'a été posée depuis le Luxembourg. Par un jeune enfant qui écoute sur mon Radio Stube avec son papa et qui me dit comment ça se fait que le plus gros transfert de l'histoire de Racing ne joue pas. Est-ce qu'il est mauvais? Est-ce que j'ai oublié la deuxième proposition? Ou trois, est-ce que c'est une grosse arnaque?
Bah déjà 20 millions, c'est largement
une grosse arnaque.
Je pense, oui. Enfin, mais ça, on le disait depuis le début.
Est-ce que son agent, ça serait pas Mehdi Keller?
Non.
Pas se fâcher avec Mehdi Keller, s'il te plaît.
Non, on se fâche pas avec Mehdi Keller. Personne respectable.
Qui est très sympa, en plus. Mais, effectivement, foncièrement, Abakar Sylla, c'est un mec qui arrive en Europe. Il fait une saison.
26 matchs.
Il fait 26 matchs en tout.
Pas en entier.
20 matchs de Jupiler League, fameuse.
Voilà, mais moi, j'ai aussi 20 Jupiler une fois. Et
pas recruté. 6 matchs de Ligue des Champions, sans être à chaque fois titulaire, effectivement. Un joueur comme ça, même à 20 ans, ne vaut pas 20 millions d'euros. Donc il paye peut-être aussi ce prix-là. On a
ça, c'est le casino. Là, on est au casino.
Oui.
Est-ce que Marc Keller et Loïc Désiré sont des joueurs de casino? Ou est-ce que...
Ils sont peut-être devenus.
Et ou est-ce qu'on leur a donné de l'argent pour jouer au casino à la place de mecs qui n'ont plus le droit de jouer au casino, ou pas le droit, ou qui se cachent?
C'est une belle analogie, mais...
Voilà, mais
est-ce qu'il a, il paye aussi le prix de son transfert, et foncièrement, ça reste un jeune de 21 ans.
Qui est nul.
Qui est pas encore à maturité.
Ah oui, mais il n'y arrivera jamais là, à ce rythme-là.
Bah, c'est vrai que je ne l'ai même pas cité dans mes trois, mais on peut le mettre.
Il a disparu.
Il est avec un loup en boîte.
Peut-être certains établissements nocturnes de Strasbourg l'ont plus vu que les supporters.
Oui, mais après, c'est pas non plus foutu pour lui.
Non, pas du tout.
Ça se trouve, dans un ou deux mois, moi je pense quand même qu'il va jouer.
Vu les performances de celui qui le, ou ceux qui le remplacent, il y a de quoi jouer.
Alors, qui par contre ne sont pas des jeunes.
Qui sont des cadres.
Donc je pense que Vieira, lui, il veut pas faire jouer que des jeunes. Je pense que lui, il essaye, je pense sincèrement, de mettre la meilleure équipe. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à écarter Sylla, le plus gros transfert de l'histoire du club, qui est un jeune à développer.
Mais est-ce que c'est finalement pas une manière de régler ses comptes aussi avec le club? Parce qu'il n'a pas eu d'autres joueurs qu'il aurait potentiellement voulu avoir. Ouais. Il faut quand même dire une chose, hein, c'est qu'on lui enlève Bellegarde le dernier jour.
Jicou.
Diallo aussi une semaine avant la fin. Parce que...
Le meilleur joueur de chaque ligne est parti dans la fin du mercato.
Et des joueurs qui ont entre 25 et 30 ans, donc l'âge de cadre. Mais effectivement, si on parle du recrutement, et ça pose encore, on revient à la politique même du recrutement, c'est à partir du moment où tu as de l'argent qui est apporté par Blouko, mais tu as même de l'argent que tu as toi-même généré. Enfin, tu vends Diallo, tu vends Bellegarde, on a fait qui encore comme grosse vente, je ne sais plus.
Cet été,
ouais.
Diallo, Bellegarde, c'est pas mal, hein. 35 millions.
Bon, et t'as libéré de la masse salariale aussi, donc t'as un peu de matière. Et en plus, au mercato de janvier avant, tu vends un joueur qui est au maçon, que tu ne réinvestis pas. Donc t'as un peu d'argent dans les caisses.
Et si là, c'est 10 millions cette année et 10 l'an prochain.
Oui.
En fait, on a techniquement ou financièrement parlant, on n'a pas, on a payé que 10 millions.
Et en plus, t'étales sur le.
Oui, c'est ça. C'est de l'amortissement. Là, c'est les versements qui sont en deux fois.
Oui.
Mais ce que je veux dire, c'est que même si on n'avait pas eu Blueco, t'aurais eu un peu de marge financière et t'aurais pu faire des recrutements pas aussi clinquants ou d'aussi jeunes. Mais tu trouvais cet été des joueurs de 23, 24, 25 ans, si tu rajoutes un effectif, moins cher.
J'ai une autre question. Ou même, c'est pas une question. Le mec qui fait, c'est pas une question, c'est une constatation. Genre, le Racing a quand même souvent recruté dans la sphère francophone, championnat de France. Les Thomasson, les Ajorc, même Diallo, Bellegarde, tous les joueurs viennent du championnat de France, des joueurs adaptés. Cette année, on prend que des mecs qui viennent. Alors il y a les deux
Bordelais.
Il y a les deux Bordelais. Bon, ça c'est une espèce de genre je sais pas non plus ce que c'est. Est-ce qu'il fallait sauver le soldat Bordeaux? Je sais pas. C'est un peu le craquage. Mais sinon là on prend quand même, on claque du pognon sur des joueurs qui sont pas francophones, qui viennent de championnats mineurs.
Vous vous souvenez ici même les gens se foutaient de la gueule de Loré qui voulait que des francophones.
Ouais non mais non, quand c'est le changement.
Quand ça marchait avec Loré, tout le monde trouvait ça génial. Non mais. Puis quand ça s'est mis à pas marcher, on fait oh là là, regardez, il est ridicule, il veut que des francophones.
Non mais c'est.
Et maintenant à nouveau on se dit ah, bah attends en fait c'est quand même bien quand les.
Non mais je trouve que c'est le changement qui est. On a changé complètement notre braquet.
Non mais tu peux recruter du monde francophone. Je pense que.
Mais non, mais c'est pas que tu peux pas recruter. Mais tu changes de tout. Quasiment jamais fait ça. Et là, bizarrement, tu débarques, tu mets des sommes folles sur des mecs qui viennent de.
Après, il y a pas tant que ça qui parlent pas français.
Oui, c'est ça. Et je prends l'exemple d'Emega par exemple. Un Emega, si on pouvait le payer 3-4 millions d'euros, je pense qu'un Racing normal avec un fonctionnement normal et sain, il aurait pu faire l'investissement, mais pas sur un joueur à Emega 2003, donc il a 20 ans. S'il avait 22-23 ans, qu'il jouait en Autriche depuis 2-3 ans, qu'il avait un peu plus de bouteilles et que tu pouvais le choper pour ce prix-là, là, on aurait pu faire l'effort. Je prends un exemple d'un autre joueur qui est arrivé cet été en France, à Montpellier, Akor Adams, qui est nigérian, qui joue en Norvège, qui a 2-3 saisons de Norvège. Il est anglophone, hein, mais donc il a, je vais pas dire de bêtises, mais il doit avoir 22-23 ans. Donc il est encore jeune, il a une petite expérience quand même. Montpellier a mis 4,5 millions dessus. Ça, c'est typiquement le genre de joueur qu'on aurait pu aller choper.
Mais ça, c'est pas choquant. Non, mais combien sur Améga? 10 millions?
13.
13 millions?
C'est le deuxième plus gros transfert du Racing.
Ce qui est très rageant, je trouve, dans le recrutement, c'est que ça fait quand même 4 ans qu'on a vu qu'il nous manquait un 8.
Oui.
Voilà. L'an dernier, on arrive à avoir Sanson un peu par miracle. Alors, cette année, on peut peut-être pas garder Sanson, moi j'en sais rien, mais on n'est pas allé chercher de 8 alors que c'est un poste qui est défaillant depuis plusieurs saisons en Racing.
Tu vas chercher un Flavien T, même s'il a 30 ans, ça te stabilise ton milieu.
Bien sûr.
En fait, j'ai l'impression que cette année, l'objectif, c'est pas d'avoir la meilleure équipe possible.
Non, mais c'est incohérent, parce qu'outre le problème du milieu, il y a les ailiers, par exemple. On a deux ailiers pour une équipe qui joue en 4-3-3.
Un entraîneur, tu sais, son système préférentiel, c'est le 4-3-3.
Voilà, donc je veux dire, ça interroge quand même sur l'équipe, sur comment elle a été construite. Et puis le problème du milieu, on a quand même quasiment aucun milieu.
Par contre, on a plein de défenseurs centraux.
Oui.
T'as mis 3,5 millions sur Seydoussou.
Qui n'a jamais joué une seule seconde.
Qui a joué que la réserve.
Oui. Mais qui.
C'est pareil, Seydoussou. Pourquoi pas? Mais le mec, t'as l'impression qu'il fait pas partie du projet. Je sais pas pourquoi il est là.
C'est une opportunité, 3,5 millions.
Genre tu dis ah putain les chaussures elles sont promo et c'est pas ma taille mais je les prends quand même parce que du coup elles sont
moitié. Mais tu vois ça, en fait c'est un peu une logique tu vois comme un NBA on va dire on prend des assets sauf que la NBA c'est une ligue fermée donc tu peux pas descendre donc tu peux effectivement NBA te dire bah on va être un peu moins bon pendant 1-2 ans mais par contre on développe des jeunes et mais si on a trop sur un poste on va faire des trades après et un jour on va faire en ligne on va y aller et là on va
tu sauf prends des bons joueurs sur la free agency et après tu peux les trader
c'est ça sauf qu'en foot en Ligue 1 ça enfin moi je pense que c'est pas trop possible de faire ça parce que
ouais,
peut-être qu'ils vont être bons les mecs dans 2-3 ans mais tu seras en Ligue 2
et ils seront
partis foutus en fait du
coup, et puis le marché combien de mecs ils sont bons ils partent tout de suite. Le marché aujourd'hui ne te permet pas de les garder après pendant 2-3 ans. Je veux dire, s'ils sont bons, ils partiront tout de suite. Donc tu n'en profiteras même pas.
Bon, alors, derrière ce recrutement qui va.
Donc on a un effectif déséquilibré.
Personne n'a compris. Hein, est-ce que c'est Marc Keller d'émission?
Keller.
Voilà. Là, ce qui va se passer, c'est que Vieira, il va se faire virer après, après la défaite contre Clermont.
Ouais. Brest. Marseille.
Sauf que c'est des... Et derrière, c'est Keller. Du coup, c'est Keller qui sera sur la scène derrière.
Bah, il aura perdu du pouvoir.
C'est ça, en fait.
Alors, est-ce que Marc Keller...
Et du coup, Keller, à la fin de la saison, il va partir, il va se faire dégager. Et puis,
Sachant qu'il a une clause pour partir.
Oui.
Alors, sachant qu'il a, il a un contrat de plusieurs années.
Voilà,
il est 5 ans.
C'est ça, 5 ans.
Il a un CDD de 5 ans.
Moi, je te parie que l'été prochain, il se bat.
Moi, je pense aussi.
Et Claire aura le vrai plongé beaucoup à 100%.
Oui, parce que finalement, juste Marc Keller, c'est le seul vestige de l'ancien Racing qui reste.
Non, il y a Kader Morgan.
Oui, non, mais ça, c'est les salariés. Ce que je veux dire, par exemple, au
conseil. Il y a Sobol.
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 Ce que je veux dire, c'est qu'au conseil d'administration du Racing, t'as plus les Pierre Schmitt, les Avier.
Alors, bon, ça, c'est pas vraiment une grosse perte, hein, on va dire.
Non, mais en fait, il reste Marc Keller qui est président. Derrière, tu as les deux de Chelsea, Stewart et Winstanley, donc directeur technique et directeur du recrutement.
Les mecs qui doivent réparer les chiottes à Chelsea.
Non, putain. Et tu as un représentant de Clear Lake, James Spade.
Complètement à fond. John Doe.
Qui fait partie de Blue Coat aussi. Et tu as Jeffrey Wilbur, qui est un représentant de Eldridge, qui est le fond de Todd Boehly.
Le fonds perso de Todd Boehly.
L'entreprise de Todd Boehly. Donc voilà, le conseil d'administration de Racing, c'est ça. T'es deux Américains, t'as un représentant de chaque fonds, et t'as les deux mecs de Chelsea.
Et Mark Keller.
Voilà.
Qui parle bien anglais, heureusement.
Heureusement qu'il parle bien anglais. Wall Street
Company. Donc ouais, voilà. Alors est-ce que est-ce que Keller est déjà parti? Donc vous voyez un départ de Keller à moyen terme, fin de saison?
À court terme, non, fin de saison.
Ouais, fin de saison.
Fin de saison.
Fin de saison.
Les élections.
Mais du choix de Marc Keller ou alors repoussé vers la sortie?
Un peu
des deux.
Après, je pense que lui, si ça se passe mal, je pense qu'il sera pas mécontent de se barrer aussi. Hein.
Mais est-ce que... Alors, c'est ce que j'ai entendu, hein, à droite, à gauche. Là, aujourd'hui, le responsable, c'est Marc Keller.
Ouais.
Oui. Pour le public alsacien, ou même pour les médias, genre...
réel, c'est lui.
C'est Marc Keller. Ouais. Est-ce que s'il part tout de suite, c'est pas un aveu de... Genre, il a raté le rachat, il a raté la vente, il a raté son année, et donc il laisse le Racing, genre, tel Catherine Trottmann, quoi.
Mais il pourra toujours dire, ce qui à mon avis n'est pas faux, qu'il n'y avait rien d'autre comme projet. Et que l'idée de continuer avec le projet initial n'était plus vivable. Avec les droits TV loupés, machin.
On peut lui répondre que le résultat est même, on est en Ligue 2, quoi.
Mais peut-être
mais après, il a le droit de dire à un moment, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de faire autre chose.
Ouais, non, mais
effectivement, ça a pas dû se bousculer pour racheter le club, non?
C'est une catastrophe pour le foot français, parce que le Racing était quand même un club sain.
Oui.
Pas endetté a priori. Je pense que c'était une vraie catastrophe.
Donc vous, c'est même pas Marc Keller. Enfin si, c'est vraiment Marc Keller, démission.
Après je pense qu'avant...
Démissionne de son propre...
Je pense qu'avant, il y a quand même l'alibi qui est Vieira. Je pense que Vieira...
Mais c'est comme, je vais redire la NBA, hein, les fusibles, hein, c'est pareil, hein, t'as le coach, et t'as le GM après, le general manager, et donc le propriétaire, t'entends pas trop parler de lui, et puis exactement, si t'as un coach, ça marche pas, un, deux, et après c'est le GM qui prend la porte.
Puis en plus, ce qui est très bon par rapport à Vieira, c'est que Vieira n'est pas un coach qui a réussi auparavant. Donc c'est pas encore le coach plein de réussite qui dit moi je me casse, j'en ai marre, laissez-moi tranquille, Vieira, mon avis.
Tu veux dire Antonetti?
Voilà.
Alors, Antonetti, il a fait une petite sortie médiatique là sur Canal+.
Bah, il était invité dans le Canal+. Plus,
il est consultant sur Canal+.
Ah, il est consultant. Il
commence le match du samedi soir.
Ah bah, il va bientôt commenter le Racing contre Marseille.
Et il disait que le projet qu'on lui a présenté ne l'intéressait pas et qu'il voulait pas continuer dans ces conditions-là.
C'est pas exactement la version qu'on avait eue au début.
Voilà.
C'était mieux dit.
La version, c'était que Patrick Vieira était la pierre angulaire du projet et qu'on avait toujours voulu Patrick Vieira. En fait. L'autre version disait que Patrick Vieira est venu parce que Antonetti voulait pas rester.
Antonetti voulait pas rester, c'est ça le.
Oui, mais c'est pas ce qui a été dit au début.
Oui, enfin.
Et après, il y a toujours cette histoire de storytelling. Je sais pas s'il y a une manière française de le dire, où on essaye d'enrober l'histoire pour qu'elle soit le mieux possible. Mmh. Là, bon, ça se fait. Alors, Marc Keller d'émission, je dis, on a vite fait le tour, en fait, parce que plus ou moins tous d'accord pour dire que Marc Keller n'est qu'un fusible parmi un autre, à peine du niveau de l'entraîneur.
Après Marc Keller, du coup, c'est qui
l'entraîneur? Question mark? Ça pourrait être un nom d'un mec dans le.
Kader Mondial.
Non, on se pose la question, est-ce que Blouko viendrait avec un président salarié qu'on a déjà vu ailleurs?
Plessis.
Vas-y, prends.
Non, mais genre un Nicolas Hulvec ou un.
Ou alors est-ce qu'ils en vont
enlever les temps?
Ou un gars carrément estampillé de chez eux?
Un américain.
Non, le mec, ça fait chier de rester trop longtemps à Strasbourg. Faut un mec qui soit au moins en France, au moins à Paris. Ouais, un mec qui puisse prendre le TGV.
Mais tu pourrais t'envoyer un mec de 32 ans, tu sais, un jeune requin là.
Qui sort de Yale.
Mark Question. ça, c'est dommage. Roman Loban.
Ah, mais c'est vrai que ce que tu disais avant, Braco, c'est que finalement, si Marc Keller part, tu as le vrai projet Blouko, tel qu'on craignait.
Disons qu'on enlève le rideau. Genre, en fait, le mec enlève son masque de Marc Keller et il dit ah, c'est Blouko, Fantomas, voilà. Genre. Sauf que depuis le début, c'est lui qui joue le rôle de Marc Keller, qui est bâillonné, là, je sais pas quoi, dans une cave en Écosse, là. On a tous vu ce film. Voilà. Et donc, qui démission? Parce qu'après, il n'y a plus de démission, parce que Blouko. Même ce qu'on disait, au contraire d'un Ilali ou d'un qui venait quand même un petit peu au club en se cachant là. Donc là il y a un actionnaire qui est venu au stade, oui. Hein, il s'appelle
Beda Degbali, pardon.
Contre Montpellier, hein, c'est ça.
Contre Toulouse, je crois.
Toulouse.
Qui est venu, qui a priori n'a pas rencontré les salariés, ni personne.
Qui n'a pas rencontré les supporters. On n'a pas prêt de communiquer.
D'accord, bah on peut en parler parce que là on est un peu dans le. Mais une fois que si jamais Marc Keller venait à disparaître pour X raisons, qui est-ce qui reste? Est-ce qu'on se retrouve pas en fait face, comme tu dis, à un mec de 32 ans qui est juste là, à la limite il sait même pas pour qui il travaille, il prend ses informations dans une boîte aux lettres dans le Minnesota et.
Gauthier Ganaille. Mais je crois qu'il est en poste lui.
Oui, donc bah, oui, on peut parler de la lettre ouverte des supporters,
ouais,
qui est sortie dans la presse, une plume magnifique.
Très bien écrit. Je ne sais pas qui l'a écrit, mais c'est un grand auteur.
On sait qui l'a écrit, mais on ne peut pas dire.
Il a déjà participé à Radio Stoub.
Ouais, effectivement, il a déjà participé à Radio Stoub. Ça, on peut le dire. Et ce n'est pas JP Larkin.
C'est pas son style.
Il aurait eu commencé par Blur, Marc Keller, Blur. Voilà, donc Blur Marc Keller, ou dans la lignée de la banderole, c'est quoi le projet, qui pose un peu des questions en disant bon, on comprend pas ce qui se passe, on nous a dit des choses, la réalité est différente.
Et le communiqué rappelle bien que tout au départ, les supporters n'étaient pas hostiles en fait.
C'était hostile à Blouko.
Oui, mais
on rappelle que la multipropriété, tout ça, c'est de la merde.
Oui, mais il n'y avait pas,
mais y a pas
de manifestation tout au départ. Il y avait un peu un wait and see un peu général, sauf sur Radio Stoub.
À part quelques dizaines de gens sur Stoub et dans les assos,
ouais. Ça s'est plutôt bien passé.
Et
des gens, c'est super pondéré.
On n'a rien à foutre, et même moi, les gens à qui je parlais qui n'étaient pas trop. Qui n'était pas trop dans du sérail, entre guillemets, c'est bien, il y a de l'argent, on va voir.
Et
donc il n'y a pas eu de levée de bouclier, il n'y a pas eu de.
On ne pourra pas accuser le microcosme.
Attends, c'est qui le mec là, qui devait signer à Nice là?
Cahuzac.
Cahuzac, ouais.
C'est hostile.
Voilà, ça c'est hostile, ouais. À tel point qu'à la fin, ils me disent bon, bah non.
Et Cahuzac est au chômage. Voilà. Mais en fait, ce qui a fait basculer ce que dit le communiqué, c'est que les craintes que certains supporters mettaient sur la table de dire que le recrutement, ça sera que des jeunes, se sont avérées exactes en fait. Hein, et que finalement, c'est...
Même maintenant, c'est assumé par Marc Keller.
Oui, c'est assumé.
C'est maintenant assumé. C'est passé d'un truc qui n'était pas vrai à un truc assumé. Ouais. On a un recrutement jeune, ouais, parce que c'est le projet.
C'est pour nous passer, on va essayer de
garder les cadres. Parce que les cadres sont là, en fait.
Oui, mais pourtant, à la communication, il disait on va essayer de prendre Djikou, on va essayer de prendre Sanson. Et maintenant, c'est passé parce qu'on n'a pas réussi. Finalement, le projet depuis le début, c'était les jeux.
Moi, j'ai entendu Patrick Vieira.
Le trading dire... n'est pas un gros mot.
J'ai dit, ouais.
Ça, c'est aussi ce qu'il a dit.
J'ai entendu Patrick Vieira dire, pour moi, on m'avait assuré qu'on ferait tout pour garder Jiku, Bégarde, Samson, même.
Mais moi, je pense que le projet qui lui a été vendu, c'est celui-là. C'est certes des jeunes. Peut-être un projet à la Monaco, hein, des jeunes, avec 2-3 joueurs d'expérience autour, quand même, de quoi... Mais là, finalement, on se retrouve...
Alors, est-ce que c'est Jiku, Bellegarde et Samson qui n'ont pas cru au projet, hein?
Bah, Bellegarde, il voulait partir, il y a une belle offre. Jiku, c'est pareil, enfin, au bout d'un moment, il voulait aussi changer, et Samson était trop cher. Voilà, ça s'est passé comme ça.
Après, Jiku,
mais t'es pas obligé de les garder eux, tu peux recruter d'autres joueurs plus expérimentés aussi.
Des Jiku, je pense qu'après, un Jiku, potentiellement, tu pouvais pas le garder par rapport à une offre de Fenerbahçe. Ouais. Hein. Après, Bellegarde, alors il avait un bon de sortie, maintenant la temporalité pose question. Hein. Il se barre le dernier jour du mercato, on reviendra pas sur ses photos faites au stade de la Méno avec le nouveau maillot, mais bon, bref.
Et s'il veut partir, il part.
Mais après, le problème, c'est que t'as déjà 4 matchs de là, ou 3 matchs qui sont lancés.
Il y a un seul joueur sur le terrain.
Oui, je veux dire, cela dit, je regardais ses stats, il joue quand même pas beaucoup.
Hein. Il était suspendu. Expulsé,
mais là, il était pas dans le groupe, je crois, au dernier match. Hein.
Mais Bellegarde, même si tu veux le garder, enfin tu recrutes un autre mec, soit tu recrutes par anticipation, ce que font les clubs normalement bien gérés, soit tu sais qu'il va partir même au dernier moment et t'as déjà pris un mec pour le remplacer.
Voilà, c'est ça.
Et ça, on l'a pas fait.
Cela dit, Marc Keller avait dit qu'il voulait pas recruter n'importe qui. Hein.
Ouais.
Qu'il voulait pas faire un panic buy hein, juste après la vente de Bellegarde.
Après avoir claqué 20 millions d'euros sur un défenseur qui n'avait pas joué une saison. Donc,
c'est ça.
Bon, alors, on va zapper un petit peu tout ce qui est stade, infrastructure, parce qu'on n'aura pas de temps pour le quiz.
On va parler de la réserve.
Non. Pas c'est mon frère à Radio Chouz, ça réserve un jour.
Ah, avec François Keller.
Quand on aura perdu 3-4 matchs, ouais. Donc, le stade, les infrastructures, une autre fois.
Première pierre est posée pour le stade. Voilà,
panier rudaché, là.
Voilà. Le centre d'entraînement va bientôt sortir de terre.
Les plus grandes grues d'Europe.
C'est pas vrai.
Il fallait qu'on ait un truc plus grand.
Le plus grand galette des rois aussi. Hein. On a quelques records.
C'est arrivé à l'Opéra, ça.
Non, on a fait un menu, là. Pour le match...
Le gâteau au chocolat.
Non, c'est contre Amiens.
Ah oui, la plus longue...
Ah oui, bien sûr.
On est mauvais sur le terrain, mais en pâtisserie, on est excellent.
D'ailleurs, j'ai même pas mangé ce gâteau.
Ah non, plus, il n'y a plus... Le gâteau au chocolat d'Amiens était très bon.
Il reste les deux prochains matchs, des pronos rapidement, et on passera au quiz de Calcio, bien sûr, évidemment, après la pub. C'est pareil, il n'y a pas de pub. Alors, tout de suite, Rennes.
Défaite 3-0, et comme le dit fort justement le Stubiste, Eric Cantona, but de Terrier. Enfin, il me pose la question, donc je confirmerai un but de Terrier.
Rennes lance sa saison.
Rennes et Terrier lancent leur saison contre nous. Ça, on n'a pas changé. On s'est quand même relancé des équipes qui vont pas très bien. Hein. Donc 3-0 pour Rennes. Terrier est doublé.
Et but de Silla, qu'on se prend.
Moi, je vois un match comme l'an dernier. C'était vraiment un match difficile pour Racing l'an dernier. C'était déprimant.
Je crois que c'était 3-0 aussi. Hein.
C'était horrible, il n'y avait rien.
Oui. Ah oui,
puis mercredi
soir. Je voilà, on a fait un radio show en direct.
Le score final, c'était pas non plus... Enfin, moi, je vois un match où en fait, on prend pas 8-0. Là, on va en prendre genre 2-0. Tu vois, 2-0 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils ont pitié de nous, tu vois, et c'est bon, quoi.
Bon, enfin, c'est Monaco Racing ou Nice Racing cette année.
Ouais, voilà,
c'est
pareil. Voilà, un truc où le score sera pas forcément...
Je suis d'accord sur Nice Racing, mais...
Mais ouais, défaite 2-0.
À tort.
Défaite 1-0, parce que comme ça me donne l'espoir. Et par contre, clairement, là, on se fait défoncer.
Alors, on n'en parle encore pas. Alors moi, voilà. Je dirais défaite 2-1, parce que je pense qu'on va quand même un jour marquer un but.
Optimiste.
Moi j'ai vu Lyon-Clermont.
J'ai aussi vu.
Et là c'est là, Clermont, alors ils s'en sortent bien. Mais il y a quand même.
Ça joue.
Ouais, ça joue quand même au ballon quoi. Parce que tu vois quand même des circuits, des trucs.
Et ça a une qualité individuelle, mais c'est un vrai collectif, ça joue bien. Et c'est vrai que j'ai aussi regardé Lyon-Clermont avec la même curiosité que t'as quand tu passes devant un accident de la route. T'as un peu honte de regarder ça, mais tu t'arrêtes et tu regardes.
Ah ouais, j'avais mais. Exactement.
Est-ce que vous voulez donner un prono pour Clermont ou est-ce qu'on reste avant le quiz sur cette magnifique métaphore de
Clermont, ça sera le Strasbourg 3 de l'an dernier.
Ah ouais, d'accord.
On écoute.
Ouais, je pense, oui.
On perd et...
Donc 2-1.
Non, non, mais...
3-2
C'est 3-2.
Oui, c'est 3-2. On vient à 2-2. Hein. On vient à 2-0. On vient à 2-2.
C'est tout pourré qui marque un but de fou.
Ouais, ouais.
Chavalerin, mais aussi un beau...
Et là, tu te dis, on va gagner 5-2, 6-2, ça va dérouler. Eh ben non, on perd 3-2.
Pas du tout.
Avec un autre Patrick sur le banc, 2-3. C'était... La moitié de ses victoires ont été acquises contre le Racing.
C'est beau, hein. Ouais.
Il est à 36 matchs, je crois, et 2 victoires. Voilà, la joie d'un multipropriété.
Ouais, c'est ça, club en multipropriété, comme quoi.
Voilà. Bah, est-ce qu'on a un quiz sur la multipropriété?
On a un quiz, effectivement. Alors, comme c'est plus le Racing d'avant, le quiz change un peu hein, de programme. Du coup, c'est une sorte, les Jeux Olympiques l'an prochain, c'est une sorte un peu de 100 mètres ou de 400 mètres. Le premier a 6 bonnes réponses. Remporte le quiz.
Okay.
Donc c'est chacun son tour et en cas d'égalité, type prolongation, tir au but, photo finish, machin. Je voudrais les joueurs du Racing qui ont joué plus de 100 matchs depuis 1998.
100 matchs avec le Racing.
Avec le Racing, bien sûr. Sachant que c'est si un joueur a joué à partir de 96 jusqu'en 2000, il compte pas. Depuis janvier 98.
Sa première apparition doit être après 98.
Doit être à partir de janvier 98. Okay. Donc après le 31 décembre 1997.
Ok. 100 matchs.
Alors, 100 matchs. Il y en a, j'en ai recensé 32. Donc les premiers tours devraient aller à ça. Et donc, alors...
Tu mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'élimination. On peut toujours...
Voilà,
c'est pas con. C'est bien,
c'est pour...
Bah, Ibrahim Sissoko.
Certains comptent double, hein, comme Sissoko. Sissoko...
Il y en a un qui compte double, je pense, je sais pas.
Sissoko, oui, oui.
C'est bon.
Sissoko. Je suis en train de regarder.
Si, si, il a 120.
Oui, non, on l'a dit avant.
Bon, j'y vais ou...
Vas-y.
Cels,
ouais, tu joues les gardiens. C'est un peu facile. 154, Cels, c'est une bonne réponse.
En première division, on a dit, hein.
Non, en championnat.
Ouais, d'accord. Bon, et je vais quand même dire Kevin Gamero.
Kevin Gamero, 134. Bien joué.
Stéphane Cassard,
c'est une bonne réponse. Il a 171 matchs. C'est le quatrième.
Guillaume Lacour,
c'est le deuxième. C'est une très bonne réponse.
Ah bah, le premier est facile.
Ah oui.
Attends, il faut pas... De toute façon, on s'en fout, c'est un 100 mètres.
Sissoko est même cinquième de ce club.
Donc en championnat.
Oui.
Ah, mais je veux dire, sixième, Milovan Sikimic.
Milovan Sikimic, il a juste 100 matchs.
C'est vrai.
Il a juste 100 matchs. Mais ça passe,
hein. Pour toi, trois
chacun.
J'aurais dit plus.
Dimitri Liénard.
Dimitri Liénard, c'est facile, c'est le premier. 294 matchs.
David Lady.
Ah,
oui.
Pas tant de matchs, je pense, en CFA.
Ah, c'est une petite saison, hein.
David Lady, non.
Il est pas dedans.
Non, David Lady n'est pas dedans. Non.
Donc je suis pas éliminé.
T'es pas éliminé. Okay. Mais du coup, 4 pour Atar, 3 pour Matma.
Et donc c'est à moi.
Oui, c'est une saison, hein, 25 matchs.
Ukidja.
Ukidja, mais ça compte pas, on peut pas le prendre. 109 matchs, bonne réponse.
On peut pas le prendre.
Ernest Seka,
c'est une bonne réponse.
Combien, hein?
Ernest Seka, je l'avais 126.
Adrien Thomasson,
c'est une bonne réponse. 141.
C'est à moi déjà ?
C'est à moi déjà.
Ludovic Ajorc.
Ludovic Ajorc, c'est une très bonne réponse ce soir. Encore une bonne réponse. Donc là, tu peux être à 6 déjà, Noah, pour augmenter. Hein.
Ouais. Teddy Bertin.
Non,
mais il a pas assez.
Ouais.
Si. Parce que sinon, il prolongeait.
Anthony Cassi,
ouais. Bonne réponse. 108 matchs. Seulement ou autant, je sais pas. Il reste quelques joueurs. Si, Teddy Bertin est à 152 matchs.
Ah,
pardon, excuse-moi.
On est à 152.
152.
Et il a commencé après 98.
Oui,
juste après. Oui, il est arrivé en 98.
Il est arrivé en 98 de Marseille.
Oui.
Pascal Janssen.
Oui.
Troisième, 175 matchs.
Et Yassine Abdesaki.
Ah, putain.
Yassine Abdesaki, il est dedans, mais 100 matchs pile. Hein,
oui, putain, c'est fou.
100
c'est
matchs pile.
Plus en ressenti.
Tout à fait.
Rakma, donc tu as 6 pour le moment. Ouais. Tu peux revenir à 6, pardon.
Je vais dire une connerie là.
Tu peux, on va pour dire des conneries aussi.
Camadini,
bonne réponse. Très très bonne réponse. Pour égaliser à 7.
C'est compliqué parce que là on commence à avoir des mecs qui ont commencé avant là,
ouais. Peut-être. Pas tant que ça.
Non. Je sais.
5.
J'accepte.
3.
Je vais dire. Non, mais non, il a commencé avant. C'est ça, du coup.
C'est bon.
Il a porté quoi ? N'importe. Mitrovic.
Mitrovic, non. Bah, il n'est pas dedans, Mitrovic.
Cédric Kanté.
Cédric Kanté n'est pas dedans non plus.
Oh. Pas de beaucoup alors.
Pas de beaucoup, mais il n'est pas dedans. Frappe-moi.
Bacilla,
non. Il n'est pas dedans, Bacilla. Il n'est pas dedans.
Je pensais à des joueurs, mais ils n'ont pas joué assez longtemps, en fait.
Il y a plein de joueurs qu'on connaît, évidemment.
Bah oui, évidemment, aussi. Le truc, c'est d'avoir des mecs qui sont revenus.
Ça va vite, hein, 100 matchs. Hein.
Ouais, enfin, oui et non.
Hein. Ouais. Ben, oui et
ça
non.
Dépend des saisons.
Bah, bien sûr. Trois saisons, tu les as
en Ligue 1.
Deux saisons et demie. En
Ligue 1, Ligue 2, il faut 3 bonnes saisons.
Ouais. Ouais.
Qui est-ce qui est quand même club là depuis quelques temps
Djikou, oui. Bonne réponse, 117.
Je sais plus s'il a été dit. Corentin Martins.
Corentin Martins n'a pas été dit et c'était le 5e.
Combien ?
168.
Oh, putain, j'aurais pas pensé qu'il avait joué autant de matchs en fait.
Est-ce que Luboya ?
Ouais. Luboya, il y est effectivement, mais alors, oui, il est 121 matchs.
Putain, mais ça va vite, ça fuse.
Ouais. Bigus.
Ça fuse, donc. Je vais rester à leur raison.
Ah, je crois que j'en ai un.
Je suis sûr qu'il y en a encore un dans l'effectif actuel.
Oui.
Mais qui joue pas.
Ah, et qui joue pas.
Possible.
Aoulou.
Bonne réponse. Ouais. Le point sur les scores, 8 pour Ator, 7 pour Akma, 8 pour Miguel.
Oh
enfin, c'est incroyable. C'est incroyable, ça va se jouer.
Ouais,
Le premier à 10, allez.
Je sèche un peu. Oh. Je tente un Pacho Donzelo.
Pacho Donzelo, non. Ouais. Non. Donzelo, non.
Fabrice Hérette.
Ah oui.
Allez. 124 matchs.
Bravo.
Putain. Yes. Pour prendre davantage seul. Là, tu peux être en 9, là.
Ouais, mais...
On n'est pas un à 156 matchs. Un autre à 134. Un autre à 131, un autre à 129.
J'ai...
Ça va vite.
Hein. Ouais,
j'en écoute.
5, 4, 3, 2, 1.
J'ai Habib Bey. Mais...
Bonne réponse. Habib Bey, 134.
Oh, mais je pensais pas qu'il avait joué autant de matchs. Hein.
Ah, il est resté longtemps. Hein. Abdallah Ndour.
Bonne réponse, c'est compte double, t'es déjà à 10 du coup.
9, merci.
9. Alors, rate-moi pour égaliser. Oh.
Allez, Chouafni.
Non,
allez, Chouafni,
c'est bon. Iguez, tu peux gagner. Tu réponds bien. Hein.
Ah. Non, mais j'ai pas trop dit, mais j'ai tourné Gonçalves.
C'est Gonçalves, non, c'est pas bon.
C'est sûr qu'il est pas si bon que ça.
Attends. Pour mener 10, c'est pour peut-être gagner. C'est une première balle de match.
Oh merde.
Sachant qu'il faut finir le tour et que t'avais commencé. Non
ouais, je sais plus.
Il y a un évident, vous avez pas
oui, cité
quand même. Hein.
Il y a toujours un mec
à qui. Il y a toujours un bien, mais. 5.
Jonas Martin, mais c'est pas...
Non, raté. Ratma, pour égaliser à 9 partout. Il y en a encore un sans match. Voilà.
Petit indice, c'est écrit,
petit en... indice.
C'est écrit sous votre téléviseur.
Mitrovic, vous voyez quoi déjà?
Non. Ça a été dit maintenant. Igas, tu peux gagner ce coup si tu réponds bien là.
J'ai une idée, mais je ne sais pas si elle est bonne. Je tente Adrien Thomasson.
Déjà dit. Ouais. Il était dedans, mais déjà dit.
Ah merde.
À tort.
Oh, ça revient. Ça vient pas.
Il y en a bien qui va sortir. 5.
Saint-Gilles-Persic.
Non.
Non, on va décoller.
Enfin, pour égaliser.
Ça, c'est moins un. Ça, c'est moins un.
5, on préfère les moins.
Oui, c'est bon, t'as raison.
5, 4.
Il est atroce ce jeu.
Farnerude.
Non. Gigas, tu peux regagner. Nouvelle balle de match.
Faut vraiment qu'on arrête.
Nouvelle balle de match.
On
n'arrête pas tant que c'est pas gagné.
Oh merde. Les gens qui. Bah sinon, peut-être qu'on peut mitrailler à. Non.
Ouais, c'est là, on c'est peut dire le premier qui propose.
Le Pen.
Ah, lui, je
ah le Pen,
oui,
bonne réponse.
Ouais. Bah oui.
Neuf partout, le dernier, le tout dernier. Celui qui trouve à gagner.
James Franchman.
Non, raté.
Moins un.
Moins un, allez. Akma. T'étais sur une bonne lancée avec Le Pen.
Ulrich, hein, Ulrich Le Pen.
Ulrich, oui, oui.
Salim Arash.
Ça non. Marche, non, moins 8. Bon, allez, Gigas.
Non, mais on est de toute façon mitraille, celui qui trouve quelqu'un.
Voilà, il trouve à gagner. Le dernier.
Putain, je suis en train de. Je regarde l'équipe de 2001.
Traoré.
Non, 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 Traoré, non.
Renaud Coad.
Non. Ah non plus.
Oh putain, j'aurais dit, il a pas
été. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il en reste 8. Il y en a un historique que vous n'avez pas cité.
La cour a été dit.
Ouais, la cour a été dit.
Quentin Auton.
Non.
Ah, putain. Très pu.
Émile Gargroff.
Non plus. Non,
j'avais joué.
J'ai trop loin.
Du pro.
Il y en a un qui a été cité dans l'émission. Hein.
Bellegarde.
Bellegarde, 129 matchs. Et sinon, l'histoire. Grimm.
C'est le nouveau latin.
156 matchs. Il y avait deux voeux aussi à 131 matchs. Oui. Bauken 113, Lala 111, ouais. Mungi à 102 et Diallo qui avait 100 matchs. Diallo,
ah ouais, 100 matchs.
Voilà.
Putain, c'est fou.
100 matchs, 40 minutes.
C'est dingue, hein. C'est dingue.
Bah, magnifique.
Voilà, ouais,
magnifique quiz.
Magnifique. Des grands joueurs, hein.
Que des grands joueurs.
Que ça.
En plus, voilà, ça, il est 1h29 et 54 secondes au stade de l'Eau. Non, je déconne. Allez, Racing.
Comme ça, c'est rien.
Allez, Racing.
Il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.